Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à tous et bienvenue dans Commute, votre podcast de qualité sur la mobilité. Troisième épisode aujourd'hui et je suis toujours en compagnie autour de cette table de Chloé. Bonjour.
Salut Ken.
Comment tu vas ?
Ben ça va.
Bien ?
Toujours cycliste énervé, ça va.
Cycliste très énervé mais responsable.
Oui.
Et ça c'est très important. Autour de moi bien entendu Victor est avec nous. Bonjour Victor.
Salut Ken.
Comment a été ton long voyage d'études ?
Très bien, ça s'est très bien passé. Je suis rentré du Maroc il n'y a pas longtemps et le soleil me manque.
Le soleil te manque. Vous êtes, semblez pas mal déprimé du temps qu'il fait actuellement.
Assez
on va essayer de pas trop vous déprimer car aujourd'hui nous allons parler pollution et mobilité sous toutes ses formes. C'est un premier évidemment podcast sur la pollution et la mobilité. On va parler évidemment de différents sujets, trois sujets différents, trois news comme d'habitude dans Commute. Vous allez voir qu'on va aborder la pollution sous toutes ses formes et parfois même un peu différentes de celles que vous pourriez penser. Commute épisode 3, ça commence tout de suite avec la chronique de Chloé. Alors Chloé, tu vas nous parler aujourd'hui de pollution sonore.
Eh oui Ken, c'est un peu étonnant parce que de commencer sur la pollution sonore, c'est peut-être pas ce qu'on imaginait, puisqu'on pense plutôt à la pollution atmosphérique quand on parle pollution et mobilité. Et pourtant, sachez que la pollution sonore, c'est ce qui gêne le plus les gens. C'est vraiment, d'après les études, c'est le désagrément numéro un dans la vie des gens, autant à la ville qu'à la campagne. Et il se trouve que malheureusement, la pollution sonore, bah, c'est souvent émis par les moyens de transport. Il y a bien sûr des pollutions sonores qui viennent d'usines, des choses comme ça, mais c'est principalement les moyens de transport qui nous font un peu chier. Et pour un petit peu commencer tout ça, il faut qu'on remette les bases de la pollution sonore. Qu'est-ce que c'est le bruit ? Qu'est-ce que c'est ? Comment on calcule ça ? Tout est basé, parce que moi je vais vous en parler pendant toute ma chronique, donc rappelons les bases. Je vais vous parler de décibels. C'est le moyen de noter la pression acoustique et donc de voir si un bruit est une pollution sonore ou pas. Je ne vais pas vous expliquer comment c'est calculé parce que je suis un peu nulle là-dedans. Donc si vous
t'as
êtes,
pas besoin, t'as pas besoin.
Ouais,
parfait,
ouais, ouais, hein, on s'en fiche un petit peu.
Plus c'est haut, plus ça fait du bruit.
Exactement. Alors, l'échelle pour la pollution sonore humaine, ça va de 0 à 192, si je ne dis pas trop de bêtises. 0 étant le silence absolu, 192 étant le décollage d'une fusée Ariane. Je crois que c'est 192 exactement. Alors, c'est très très fort, on n'a pas l'occasion d'entendre vraiment tous les jours une fusée Ariane décoller. Il faut savoir qu'en général, on va plutôt jusqu'à 140 décibels max, qui correspond à quelque chose de plus fort. Enfin, voilà, bref, de 0 à 192.
Le seuil de douleur, je crois que c'est 120.
Eh bien, on y vient. 80 décibels, c'est le seuil de risque. 85 décibels, c'est le seuil de danger. Et 120 décibels, c'est le seuil de douleur. À 140, on peut vraiment avoir des gros problèmes, ah ouais. On peut perdre l'audition. Donc, évitez de vous coller à côté d'une fusée Ariane. Ça sera mon conseil numéro 1.
J'éviterai.
Mieux. Et la petite particularité du bruit, enfin du son, c'est que ça se propage et il faut avoir un moyen de propagation. Donc, c'est soit dans l'air, soit sur l'eau, enfin sous l'eau. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de son dans l'espace. On a tous vu Alien. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier.
Tout à fait.
Personne ne vous entendra faire du vélo ou avoir votre voiture qui fait vroom vroom. On y reviendra plus tard, je vous en parlerai un petit peu. Alors, les pollutions sonores des différents moyens de transport, j'ai essayé de les classer du moins gênant au plus gênant. Ça va vous paraître évident, peut-être que le dernier va vous surprendre d'ailleurs. Bien sûr, marche à pied, vélo, skate et autres mobilités douces, on va dire. Ça se calcule. Enfin, j'ai pas vraiment de chiffres là-dessus parce que c'est pas ce qui est très gênant en fait. On va parler aussi un petit peu de tout ce qui est véhicules électriques. c'est un petit peu aussi les moins gênants après le vélo. On est sur des décibels en dessous de 60, je crois.
Donc ça s'entend. C'est bien audible, sûr. 60.
Oui, ça s'entend. Pour vous donner une petite marge, enfin un petit comparatif, par exemple, un aboiement de chien, c'est 55 décibels. Un bébé qui pleure, c'est entre 80 et 100 décibels. Voilà, pour vous donner un petit peu ce que ça donne.
Une voiture électrique fait plus de bruit qu'un aboiement de chien.
Ça dépend. Après, c'est un petit peu en fonction de la voiture, en fonction de tout ça, quoi. Ce qui fait beaucoup de bruit dans les moyens de transport, bah, c'est tout ce qui est véhicule motorisé. Donc, et là, je vais distinguer les deux roues motorisées et les voitures motorisées parce qu'il y a une vraie différence. Puisque les deux roues motorisées, je vais leur consacrer un petit peu plus de temps parce que c'est ceux qui posent en général le plus de problèmes. Tout ce qui est train aussi, tout ce qui est rail, ça fait pas mal de bruit. On est entre 70 et 100 décibels, on va dire. L'avion, c'est pas top. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez élevé, jusqu'à 140 pour un décollage.
Ouais, donc
il faut pas être
très dangereux.
Voilà, c'est assez dangereux. Fusée, on en a parlé. Les bateaux, j'ai pas les décibels exacts. On est un peu moins confronté à cette pollution sonore tous les jours. Donc si vous avez des chiffres sur les bateaux et sur le bruit que font les bateaux, je suis preneuse. Le petit moyen de transport qui a vous est donné, qui fait beaucoup de bruit, eh ben c'est le flyboard. Une chère Franky Zapata que vous connaissez tous.
C'est cette espèce de mix entre un avion au décollage et une longboard.
Exactement. Alors, à votre avis, ça fait combien de décibels?
Attendez, je ne vois pas du tout ce que c'est un flyboard. Excuse-moi.
Ah, pardon. Alors, on en a beaucoup entendu parler au 14 juillet, ouais. Puisqu'il a défilé au 14 juillet devant Macron et il a traversé la Manche dernièrement. Ouais. C'est ce gars qui est sur cette espèce de. C'est un peu un jetpack.
Oui, voilà, d'accord, ok. Voilà. L'homme volant, le. Comment, James Bond?
Bah, Franky Zapata. Il a un nom magnifique.
Il a le meilleur nom de l'histoire. Enfin, clairement.
Ouais, mais on n'aime pas trop son invention parce que c'est un peu gênant. Il n'y a que Macron qui l'aime bien. Je dénonce. Moi, je suis contre. C'est nul. Donc, à votre avis, combien de décibels le flyboard?
Allez, moi je dis 150.
Ouais, enfin, là, vous êtes très très large quand même. Ouais, on est à 120 décibels.
Ouais, c'est déjà. C'est
donc,
déjà
c'est énorme.
Seuil de
douleur. C'est horrible.
Il a des boules caisses quand il est sur son
truc. Il a des boules caisses, heureusement. Okay. Sinon, c'est un peu compliqué. À petite anecdote sur les véhicules électriques qui font pas beaucoup de bruit. C'est que maintenant, ils sont obligés de rajouter des bruits pour qu'ils existent dans l'espace un peu urbain. Ah, ouais. Donc, vous savez qu'il y a des bruits sur les autolibes, enfin, feu les autolibes. Il y a des bruits sur les voitures électriques. On en parlait à la dernière dernière news de l'émission numéro 2 sur la Porsche Taycan, si je ne dis pas de bêtises.
Yes.
Il y a l'option payante de rajouter un bruit de moteur. Parce qu'elle ne fait pas assez de bruit.
Oui, mais c'est du bruit intérieur, là, pour le coup. Ce n'est pas du bruit à l'extérieur.
Non, c'est du bruit extérieur, pour que ta voiture fasse vraiment vroom vroom, quoi. Et pour que tu te sentes un peu mieux dans ta vérité.
Ah ouais,
mais putain, pour le coup,
ce n'est pas pour sauver des êtres humains. C'est juste pour que le mec à l'intérieur se sente un peu mieux.
Exactement.
Dans son bruit de moteur.
Ouais, moi, je pensais que c'était un truc qui était genre dans tes enceintes à l'intérieur de ta bagnole.
C'est pour qu'on t'entende arriver et que ça fasse vraiment un bon vieux bruit de moteur. Thermique
ridicule.
Et pas électrique. C'est débile et surtout que c'est payant. C'est ça qui est dingue. Moi, je reviens toujours pas.
Note aussi que la plupart des véhicules utilitaires ont des bruits lorsqu'elles entament une marche arrière, qui n'est pas forcément quelque chose de très, très, très sonore aussi, afin de faire attention. Il y a quelque chose qui recule. Ce n'est pas obligatoire, le bruit sur les voitures électriques.
Non, mais ça arrive souvent. Et je voulais vous faire écouter aussi le bruit d'un deux roues électrique qui est en train d'être conçu, je crois, au Danemark, si je ne me trompe pas.
En fait, c'est un bruit de vaisseau spatial.
Exactement. Je crois qu'ils le définissent un peu comme ça. C'est pour changer un petit peu de ce dont on a l'habitude. Et c'est un peu fou. Pourquoi ça fait du bruit? Je me suis un peu penchée là-dessus. Et vous avez peut-être des connaissances là-dessus à m'apporter. Mais en gros, principalement, ça vient du moteur, le bruit d'un véhicule. On est d'accord? Ouais. C'est la base.
Principalement.
Alors, vroom, vroom.
Le moteur à une certaine vitesse.
Exactement. Ouais. Jusqu'à 50 km/h, si je ne me trompe pas.
Ça.
Au-delà de 50 km/h, c'est le bruit de friction entre les pneus et l'asphalte,
tout à fait.
Qui fait énormément de bruit. C'est pour ça qu'il y a des limites à la voiture électrique, et je laisserai Victor en parler, puisque un moteur électrique peut ne pas beaucoup faire de bruit, mais au-delà de 50 km/h, ça revient à une voiture normale, donc
tout à fait.
Ça atteint un peu ses limites, quoi. Et il y a aussi toute la distinction qui est assez intéressante entre le bruit que va faire l'engin, le bruit qu'on va percevoir, et le bruit de la mobilité en général. Je m'explique, ce n'est peut-être pas très clair. Par exemple, un motard sur sa moto va entendre le bruit de sa moto, mais il ne va pas entendre le bruit qu'elle émet quand on est à côté.
Tout à fait.
Tout ce qui est effet Doppler, ENCO, je pourrais vous en parler plus longuement si vous souhaitez. Le bruit, par exemple, d'un avion va faire beaucoup de bruit au décollage, mais on parle aussi du bruit qu'il y a à l'intérieur d'un avion, qui a une vraie pollution sonore. Quand on passe 12 heures dans un avion, il faut savoir que l'intérieur d'un avion, c'est à peu près 80 décibels, constamment. Donc c'est un vrai problème. Je vous parlais de la fusée. Je me suis un peu intéressée aussi au bruit qu'il y a à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale. Oh. Ça reste un moyen de locomotion, un peu.
Quelque part.
Ouais.
Dans la station directement, pas dans la fusée qui décolle.
Non, non. Ah ouais. Alors, dans la fusée qui décolle, c'est l'horreur.
Ouais.
Mais dans la station, ils étaient, au tout début de l'exploitation de la station, à peu près 95-100 décibels mais constamment.
Qu'est-ce qu'ils faisaient autant de vache.
Et ben, c'est tout ce qu'on appelle les bruits solidiens, si je ne me trompe pas. C'est en fait
la matière.
Non, c'est tout ce qu'il y a, tous les mécanismes qui font que ça fonctionne. C'est la ventilation, c'est par exemple dans un train, ouais. Ça peut être le bruit de freinage, mm-hmm. Le bruit d'aération, de choses comme ça. Donc ça, c'est tous les bruits aussi qu'il faut prendre en compte dans la pollution sonore et auxquels on ne pense pas beaucoup, notamment le bruit dans les gares aussi, par exemple. Est-ce que vous avez déjà vu une gare silencieuse ?
Non, pas non. Du tout.
Et en fait, c'est des bruits auxquels on ne s'intéresse pas beaucoup comme pollution parce que c'est des endroits où on passe vite. Pareil, dans la rue, tu vas dire « ouais, c'est bruyant », mais tu ne peux pas exactement dire pourquoi c'est bruyant. Est-ce que c'est lié à un seul véhicule ou est-ce que c'est l'ensemble ? Et en fait, on sait très bien que plus un endroit est bruyant, plus nous, on va être bruyant. Et par exemple, sur un quai de métro sans métro, on est, je crois, aux alentours de 90 décibels aussi parce que les gens parlent très fort, parce qu'il y a de la ventilation, parce que plus des gens parlent fort autour de toi, plus tu vas parler fort. Et donc, c'est un brouhaha constant qui est assez intéressant à prendre en compte parce que c'est aussi, je vous en parlerai, dans les solutions contre la pollution sonore, il faut aussi envisager ça. C'est pas que le véhicule en lui-même, c'est aussi tout ce qui concerne la mobilité et les éléments autour de la mobilité. Donc, cette distinction étant faite, je vais vous parler un peu des risques de la pollution sonore. On parlait du coup de la pression acoustique et des seuils. Donc j'ai dit qu'à 120 décibels, il y a un seuil de douleur. Au-delà de ça, la pollution sonore, ça induit beaucoup, beaucoup de problèmes en fait, qu'on n'imagine pas trop. C'est que d'une, ça va être désagréable au niveau des oreilles. On peut avoir de la perte de sensibilité acoustique. On peut avoir des acouphènes. On peut avoir aussi des problèmes cardiaques. En fait, ça augmente la pression sanguine, le bruit. Et même si on ne se rend pas compte, un bruit soudain, ça va vous faire battre votre cœur beaucoup plus vite. Et il faut savoir qu'on ne s'habitue jamais au bruit. Donc ça veut dire que c'est constant et ça peut nous faire beaucoup de mal. Il y a des études qui montrent que, par exemple, en milieu urbain, on perd en moyenne 11 mois de vie, d'espérance de vie, à cause du bruit.
Donc c'est quand même... En plus de toute la pollution...
Juste la pollution sonore nous fait perdre quasi un an d'espérance de vie. Et c'est des choses qu'on n'imagine pas trop.
Je déprime, ça y est.
Bah, vive les casques à réduction de bruit active et les boules caisses. Hein.
C'est vrai.
C'est quand même pas mal. Hein. Enfin,
je regrette ma campagne, mais c'est vrai que mon casque à réduction de bruit a changé ma vie en mobilité, que ce soit en avion ou même dans le métro.
Les 80 décibels complètement absents quand t'es en avion, ça marche super bien, les trucs quand t'es en
c'est
avion.
Clair.
C'est incroyable.
Vraiment. Mais je rebondis sur ce que tu viens de dire, Ken. Tu regrettes ta campagne. En fait, c'est pas lié qu'à la ville, le bruit. La pollution sonore, elle est vraiment partout, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le bruit, ça se propage. Et donc, c'est pas limité à 5 mètres autour de ta voiture. Donc du coup, on a un vrai, vrai, vrai gros problème de risque environnemental à cause du bruit. C'est pas que nous qui allons mourir, c'est aussi tout notre environnement autour de nous. Je m'explique. D'abord, on nique un peu les animaux. Il y a eu plein d'études faites autour des autoroutes, autour des grands axes routiers. Il y a de la disparition à la fois des animaux et à la fois des plantes. Parce que, par exemple, les oiseaux autour des axes routiers, il faut qu'ils fassent plus de bruit. Donc, ils ont remarqué qu'il y avait des changements génétiques au niveau des oiseaux.
Sérieux ?
Et ouais, parce que ça les gêne un peu. Il y a des oiseaux en ville qui ont décidé de un peu pallier ça en chantant avec une fréquence plus haute, donc plus aiguë. Parce que sinon, ils ne se font pas entendre à cause du brouhaha. Donc, du coup,
empêche les oiseaux de niquer,
oui.
Parce que du coup, ils n'arrivent pas à entendre.
Clairement.
C'est extraordinaire.
Et je fais des raccourcis, mais en gros, quand il n'y a plus d'oiseaux ou d'insectes, eh ben, y a moins d'éléments pollinisateurs. Donc, il y a plein d'espèces d'arbres qui ont disparu autour des autoroutes. Et donc, du coup, tout l'environnement écologique autour des axes routiers ENCO est en train de disparaître. Et ça pose vraiment des gros problèmes, à tel point qu'ils sont même en train de réfléchir à prendre cette donnée en compte à la construction de routes ou même à la quand on choisit par exemple des axes aériens, je sais pas comment on appelle ça,
couloirs.
Des couloirs aériens, parce que ça pose aussi des gros problèmes environnementaux.
Ah, c'est super, parce que ça, tu vois, je rebondis là-dessus, parce que moi, quand je travaillais pour des projets ferroviaires, il y a des réglementations qui sont extrêmement strictes pour les bruits, mais concernant les habitations. C'est-à-dire que tu vas mettre des murs isolants ou tu vas isoler des façades pour faire en sorte que les gens, juste, ils pètent pas les plombs parce que tu fais passer plus de trains devant chez eux. Mais je ne savais pas du tout que ça a impacté les écosystèmes et que du coup...
Et là, je ne vous ai parlé que de la terre. Parce que dans l'eau,
c'est vrai, y a l'eau.
C'est l'horreur, parce qu'il faut savoir que le son se propage plus vite et plus loin dans l'eau.
Tout à fait.
Donc du coup, tout ce qui est gros bateaux et chantiers marins, on va plutôt parler des bateaux parce qu'on est dans la mobilité, et ça nique aussi tout ce qu'il y a dans la mer. Alors, on a souvent l'exemple des cétacés qui communiquent en faisant des bruits. sous l'eau, et du coup d'avoir du bruit parasite par-dessus, ils se perdent, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de cétacés qui viennent s'échouer sur les plages. C'est certainement à cause de la pollution sonore. Il y a aussi, et du coup on croyait que c'était que les cétacés, mais ils ont fait pas mal d'études sur un peu tout ce qu'il y avait dans l'eau, et ils se sont rendu compte que tout ce qui est invertébré, qui n'ont pas de système audio, j'allais dire, qui n'ont pas d'oreilles, et ils en souffrent aussi parce que c'est de la pression, le son. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'invertébrés qui se baladent sous l'eau en gérant la pression de l'eau. Et d'avoir, en fait, de la pollution sonore, ça les bloque complètement. Souvent, ils restent, du coup, immobiles et ils meurent. Donc, ils ont testé dans des aquariums de balancer du gros son sur des invertébrés. Et souvent, c'est la mort qui est là.
Alors que balancer du gros son sur les invertébrés, ça s'appelle un technival.
C'est clair.
Ça fait aussi beaucoup de mal.
Non, et puis il y a tout ce qui est un peu logique, c'est que s'il y a trop de bruit, les animaux comme nous, ne peuvent pas communiquer. Donc par exemple, tout ce qui est homard, je suis experte dans les trucs sous-marins maintenant, tout ce qui est homard, ils se frottent les antennes pour parler entre eux, et s'ils ne s'entendent pas, il faut savoir que les petits homards, ils font ça pour communiquer, pour éviter les bagarres. Et du coup, s'ils ne s'entendent pas, ils se frittent tout le temps. Ah, et donc du coup, il y a beaucoup plus de problèmes dans les populations de homards qu'avant. Et ouais, vous imaginez pas que j'allais parler de ça.
Homard, c'est extraordinaire.
C'est horrible.
S'ils avaient des réseaux de mobilité plus développés dans la mer aussi, les homards, ils déménageraient et trouveraient plus calme.
Mais grave.
Mais achète un casque Bluetooth, voyons, Jean-Michel.
C'est la solution, c'est la solution. Et du coup, Victor, toi, tu disais tout ce qui était effectivement habitation, mettre du double vitrage, juste comme ça. Il y a pas mal de tests qui sont faits. J'ai remarqué un test assez rigolo sur le décollage des fusées. Parce que là, on est donc sur du 190. À ce stade, ça fait exploser un peu tout. Et surtout, ça fait des micro-fissures sur tous les éléments de la fusée, le bruit. Donc, c'est un peu gênant quand même. Alors, ce qu'ils font, et là, j'ai découvert ça, et c'est pas du tout écolo, c'est qu'ils balancent de l'eau à mort dessus pour casser les ondes et pour éviter que ça fasse trop de vibrations. Et je vois que Quentin acquiesce, donc je suis contente puisque j'ai une validation technique là-dessus. Donc en fait, une fusée qui décolle, c'est des litres et des litres d'eau pour éviter que ça pète tout. Et j'ai appris une autre chose là-dessus, c'est que du coup, ils testent ça avant. Et il y a un site de test dans l'Ohio, si je ne me trompe pas, qui a reproduit en fait un mur d'enceinte, d'ampli, je sais pas, pour un peu reproduire ce que ça fait, pour voir quels matériaux peuvent supporter un tel bruit ou pas. Donc si vous voulez aller tester, ça peut être rigolo.
J'allais me dire, ils ont un site, tu vois, genre en gros, bruitdefusée.com, où ils testent.
Ça doit exister.
On va mettre les pires bruits du monde.
Ah, ça va être génial. En post-prod, on va s'éclater. Merci Quentin.
Mais je vous conseille d'aller voir ce site de test, parce que c'est assez impressionnant. C'est vraiment un mur de 10 mètres de test, et c'est vraiment...
C'est un technival,
c'est complètement un technival, en fait. Tout est lié au technival. Et alors, vous le connaissez, cet endroit de test, parce qu'il apparaît dans Avengers.
Ah oui,
c'est l'endroit où il y a les bureaux du SHIELD.
Ah,
ils s'en sont servis comme décor. Voilà. Petite anecdote qui n'a rien à voir, mais sachez que c'est assez rigolo.
Je me demande combien de décibels fait l'armure d'Iron Man maintenant.
Est-ce qu'elle fait du bruit ?
Mais c'est Frankie Zapata, en fait, Iron Man. Genre Robert Downey Jr., il peut se ranger.
Il est plus sexy, Iron Man, je trouve. Je dénonce,
j'espère pour lui.
Alors justement, Chloé, est-ce qu'il y a des solutions un tout petit peu pour diminuer un peu toute cette pollution sonore ?
Il y a des solutions, mais je ne suis pas, très positive là-dessus, je vous le dirai tout à l'heure, parce que d'abord, je vais vous faire un petit aparté sur les deux roues motorisées, qui sont mes ennemis personnels. Les deux roues motorisées, c'est ce qui fait le plus de bruit tous les jours. En gros, là, on parlait des avions, des fusées, mais on n'est pas, constamment en contact avec un décollage d'avion et un décollage de fusée. C'est vraiment scooter et moto qui posent un vrai gros, gros problème de décibels pour plein de raisons. D'abord parce que c'est assez peu réglementé, bizarrement. par rapport à d'autres choses. Et c'est des moyens de transport qui sont souvent beaucoup modifiés. Ça fait partie de la culture en fait, du deux-roues, surtout de la moto. C'est que tu ne vas pas acheter une Harley et rien changer dessus.
N'est-ce pas, Victor ?
Bah, on va arrêter de parler de mes pots d'échappement à chaque épisode, c'est insupportable.
Bah, par exemple, toi, tu as changé tes pots d'échappement.
Oui, bah, écoute.
Donc du coup, je suis allée du côté de l'ennemi pour faire cette chronique et je suis allée sur les forums de moto.
Non.
Je vous jure, j'ai passé des heures sur les forums de moto pour comprendre un peu.
Ah, maintenant tu comprends ma douleur ou pas ?
Mais en fait, j'ai découvert un truc très intéressant.
Plein de gens bien.
Exactement. Tu m'ôtes les mots de la bouche parce que, en gros, bah, y a des gens hyper intelligents et sensés dans les forums de motards. Parce que pour eux, c'est un vrai, vrai gros problème, le bruit aussi. Déjà parce qu'ils ont, bah c'est un peu gênant d'avoir un truc qui fait trop de bruit. Ensuite, ça leur pourrit un peu leur image. C'est pas parce qu'il y a 15% de gars qui font nimp avec leur peau que ça doit impacter toute l'image de tous les utilisateurs de moto.
Clairement.
Et du coup, je suis tombée sur un article vraiment très détaillé d'un utilisateur de moto qui raconte un peu tout le problème du son et de la pollution sonore. Et ça pose tellement de problèmes dans le milieu de la moto que son article a été... les commentaires sont fermés parce que ça déchaîne beaucoup trop de passion, en fait.
Ouais, ça a été,
ouais, c'est vraiment très violent au niveau des commentaires et c'est vraiment ceux qui aiment le bruit contre ceux qui se disent « Bah non, on va arrêter de faire n'importe quoi avec notre moto. »
Après, il y a aussi... Enfin, j'avais déjà parlé, mais il y avait l'argument qui était sécuritaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de motards qui vont dire « On modifie nos pots juste parce qu'en fait, sinon, on prend plus de risques. »
C'est ça. Et ben cet argument est complètement pété.
Oui, ben je sais.
Il y a aucune étude qui montre que de faire plus de bruit, t'es moins en sécurité. Au contraire, ils ont fait des études sur le fait que les motos les moins bruyantes sont celles qui sont les moins impliquées dans les accidents. Donc, ça prouve un peu que,
ça,
en fait...
Je pense que là, t'as aussi du comportemental.
Ça, c'est intéressant.
Oui, mais du coup, le comportemental... Enfin, tu peux pas
dire que tout est lié.
Ouais, non, mais tu peux pas dire je mets un pot qui fait énormément de bruit parce que sinon je vais
non,
mourir.
Non, mais je clairement.
Et toute cette question de sécurité, elle est pas valable. Il y a toute une explication assez technique, mais qui me paraît évidente quand je l'ai lu. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cet article. C'est que ton pot d'échappement, il va vers l'arrière, en fait.
Ouais.
Donc du coup, si t'as besoin que les gens devant toi t'entendent, bah ça sert à rien, en fait, de faire un pot qui fait plus de bruit, parce que c'est plutôt les gens derrière toi qui vont subir quelque chose. Donc si t'as besoin d'un argument sécuritaire de dire j'ai besoin qu'on m'entende, tu peux mettre un avertisseur sonore qui serait dirigé vers l'avant, qu'on appelle communément un klaxon.
Mais oui.
Voilà.
Mais du coup, tu deviens une deuxième source de pollution sonore.
Non, parce que c'est pas constant. Tu peux le dire.
Ah oui,
tu peux klaxonner que quand il y a un danger présent et que tu veux qu'on t'entende. Et puis il y a toute la question de la sécurité, de dire oui, on peut t'entendre si tu fais beaucoup de bruit, sauf qu'on va t'entendre au dernier moment. Encore une question de propagation du son.
Ouais,
le son, voilà. Enfin, on va pas rentrer dans les techniques, dans la technique, mais ça sert à rien en fait de faire beaucoup de bruit. Et quand bien même on t'entend trop tard. Et cet article parlait aussi du problème aussi qui est lié, c'est pour ça que je m'attarde sur les deux roues, c'est parce que ça fait partie de l'engin, le bruit. Tu vas acheter aussi une moto parce qu'elle fait du bruit. Si demain on te vend une Harley Davidson qui fait aucun bruit, eh ben t'es un peu frustré. Et c'est une vraie demande des acheteurs, c'est que eux, quand ils ont leur grosse moto, bah, ils ont besoin qu'elle fasse du bruit et c'est pour ça qu'ils ont tendance à la trafiquer. J'ai vu du coup plein de forums sur les Harley Davidson. Une Harley Davidson à l'achat normal ne fait pas beaucoup de bruit.
Bah, ça fait un peu plus de bruit que les autres motos.
Un peu plus, mais
plus que ça, c'est-à-dire que c'est un positionnement pour certaines marques. C'est-à-dire qu'il y a certaines marques qui ont certains types de moteurs qui sont connus par les motards et du coup qui vont être reconnus. Enfin, motos qui vont être reconnus.
Exactement. Et moi, je suis experte de reconnaître les moteurs de 205, par exemple. Je pourrais entendre un moteur de 205 partout. Et donc, je peux comprendre aussi qu'on soit attaché au son d'un moteur.
Ah, mais carrément.
Et ça peut faire partie de l'argument de vente, mais tu peux toujours avoir un beau son et qu'il ne fasse pas 120 décibels.
Après, le truc en moto, c'est que par exemple... mais ça, c'est typiquement si tu n'as jamais roulé en moto en tant que pilote, tu ne peux pas t'en rendre compte. C'est qu'au-dessus de 80 km/h, ton bruit de moteur, tu ne l'entends plus. Parce que tu as le bruit du vent.
C'est ça.
Et en fait,
tu as le casque,
plein de trucs qui font que. Et du coup, tu peux faire beaucoup plus de bruit pour que toi, tu l'entendes parce que c'est ton plaisir. Mais en fait, tu vas pourrir tous les autres qui sont
après,
tout à fait.
Dans le cas des Harley, ce sont des motos de cruising dans lesquelles tu ne vas pas forcément te déplacer très très vite. Ça fait un bordel, mais ça fait un bordel plutôt dans les graves. Or, les bruits les plus désagréables vont être forcément les bruits les plus...
Alors, ton argument vaut le coup, Ken, mais... Sauf que ça peut marcher pour une Harley, Mais le problème de la pollution sonore, c'est que c'est pas, tu peux pas te limiter en disant, bah celle-ci ça va, elle fait 85 décibels, c'est bon. C'est qu'en fait c'est constamment.
Ouais.
C'est que c'est aussi quand tu vas pousser un peu le moteur, quand tu vas faire des accélérations, il y a toute une question aussi de comment tu conduis, parce qu'il y a plein de motards qui vont dire ça sert à rien de mettre à fond ton accélérateur, tu peux tout à fait conduire de façon pisse et ça va pas gêner les gens.
Oui, non, mais clairement.
C'est vrai que changer mon rapport à 4000 tours minute en moto, ça me fait un peu chier quand même.
Oui, oui, non, mais en même temps, c'est juste que tu... Enfin, c'est pareil, tu roules pas en ville de la même façon que tu roules en campagne, quoi. Genre, quand t'es en campagne, au milieu de, au milieu de nulle part de la forêt, bon, tu fais chier trois biches. Et encore, enfin, tu vois, c'est...
Non, mais regarde,
et encore, c'est
regarde.
Tu fais chier ton environnement, ouais. Mais du coup, t'es moins tocard, quoi. Alors que... Enfin, tu vois, bah, typiquement, les mecs qui sont au feu rouge et qui font, qui touchent constamment leur accélérateur et qui démarrent pleine balle tout le temps, c'est insupportable, quoi. Genre, vraiment.
En plus, du coup,
tous les motards passent pour des blaireaux après, tu vois.
Oui, c'est ça, mais
c'est ce qui est vraiment dénoncé, en fait, je pense, dans la communauté de la moto, c'est que c'est pas une généralité, les gens qui échangent
ils
leur peau.
Ils sont minoritaires, on est d'accord.
Ah, oui, clairement.
Sauf qu'on a l'image de motos qui font du bruit, de scooters qui font du bruit. Alors, scooter, c'est un peu différent. Là, on va parler vraiment de la moto. L'argument, au-delà de la sécurité et au-delà de la moto qui fait un bruit et qu'on aime bien, eh ben c'est qu'il y a un vrai problème. Et pardon, je vais encore me faire allumer dans tous les sens, mais je suis obligée de parler de bruit et virilité, bruit et existence, bruit et sexualité, on va en parler.
Tu veux vraiment avoir des soucis.
Je sais, mais c'est hyper important d'en parler. Parce qu'en fait, on a un espèce de truc dans notre éducation et dans nos mentalités qui dit que bruit égale puissance. Et donc, du coup, puissance égale virilité égale j'existe. Et il y avait un motard qui disait, effectivement, ça peut être aussi intéressant de faire du bruit parce qu'on va te regarder, que ça soit en bien ou en mal, mais t'existes auprès des gens. Et donc, du coup, on va se retourner sur toi. Et une fille, il y a cette espèce de mentalité de se dire, si ma moto, elle fait un gros vroom vroom, je suis sexy. Oh donc... Malheureusement, ça coule encore un petit peu.
Tu vas avoir tellement de problèmes sur Twitter. On va devoir argumenter pendant des heures.
Alors, je dénonce.
Alors qu'un petit vélo jaune fluo et tout le monde te regarde aussi.
Ouais.
Non, mais pour vous dire, et c'est pas moi qui le sors, c'était dans l'article, mais en gros, il y a des parallèles entre, par exemple, par exemple, les grands singes qui font beaucoup de bruit pour draguer
attention,
et
Chloé.
Les motos qui font beaucoup de bruit. Mais non, mais c'est intéressant d'en parler.
Tu penses que ce serait un sorte de rut très, très primaire dans
exactement.
Une société technologiquement évoluée ?
Exactement.
C'est extraordinaire.
Ah, ben, voilà, moi, j'ai envie d'un peu avoir vos avis, surtout toi. Qui fait de la moto, Victor ?
Un conducteur responsable, Victor,
oui,
hein,
mais
je le rappelle.
Oui,
un
mais
peu
tu
de même,
aimes bien faire du bruit.
Non, mais on parle de j'aime bien faire du bruit. Moi, j'ai des pots d'échappement qui sont certes changés, mais qui ont. Enfin, j'en ai déjà parlé, qui. Sont bridés, enfin, qui ont encore le truc qui font pas non plus totalement.
Toute la puissance.
Voilà. Ensuite, moi, il y a deux choses. C'est que c'est ce que j'en parlais, c'est que c'est un plaisir qui est très solitaire pour le coup. Moi, je vois pas ma moto comme un outil de séduction. En mode regardez-moi et d'ailleurs en plus pour le coup j'ai un autre plaisir qui là pour le coup est très égoïste et très séductif c'est l'habillement du motard qui pour le coup ne fait pas du tout de bruit mais je pense que tu crées
c'est
beaucoup plus
sexy.
De fantasmes en étant en cuir en jean et avec des gants que en faisant plein de bruit mais ça peu importe en fait enfin mais pour le coup le
c'est un bon sujet de chronique ça non
ouais non mais pour le coup en plus j'ai des amies motardes qui sont féminines et qui, peu importe, je me suis trop mal exprimé, qui elles aussi aiment beaucoup les bruits des moteurs parce qu'en fait, juste c'est une mélodie qui est sympathique, tu vois.
Ah, mais moi j'aime bien le bruit des moteurs. J'aime pas les nuisances sonores trop fortes.
Oui, non, mais c'est clair.
Donc un vrai beau moteur, un vrai beau bruit de moteur, moi je trouve ça agréable.
Tu sais aussi que bruit va être lié à vibration
oui.
Et que la vibration va être aussi lié au plaisir de,
ouais,
de faire de,
t'aimes
de,
bien
de,
vibrer.
De la moto. Ouais, tu aimes bien vibrer aussi, tu nous racontais tes folles soirées. Non,
mais... Alors, petite anecdote
vas-y.
Que j'ai lue,
que
c'est qu'en plus, quand tu changes ton pot pour un pot pas constructeur
ouais.
ou pas homologué, eh ben, ça baisse la puissance de ta moto. Parce qu'ils sont pas bien assez adaptés. Et donc, si tu fais pas ça bien, eh ben, il y a quand même plein de gens qui
alors,
risquent.
Alors, ouais, mais c'est...
Bref,
ouais.
Reparlons-en.
C'est plus compliqué que ça, mais oui, la plupart du temps, oui.
J'attends les débats sur Twitter.
Du coup, sur le forum
Ken,
de qualité.
Et sur le forum. Ken, je te réponds à ta question sur est-ce qu'il y a des solutions à la pollution sonore?
Bah
oui, il y en a plein.
S'il te plaît.
En fait, il y a à la fois s'attaquer à l'objet. Donc, ça peut être de faire des moteurs qui font moins de bruit. Ça peut être aller vers l'électrique. Ça peut être d'essayer de faire avec ce qui existe en ce moment. Donc, aussi réduire, par exemple, l'asphalte. Donc, faire des revêtements qui insonorisent un peu plus, des murs anti-son autour de l'autoroute, réfléchir aussi à tout ce qui est urbanisation, puisqu'en fait, le bruit, il est là aussi quand on va tout droit. Donc ça peut être intéressant de réduire la vitesse, puisque quand moins on va vite, moins on fait de bruit avec une voiture ou quoi que ce soit, donc ça peut être intéressant de réfléchir la ville un peu d'une autre façon.
Le périph' à 50, t'es pour ?
Bien sûr, mais c'est prouvé que ça fait beaucoup moins de bruit quand on baisse la vitesse, même de 10 km/h. Mmh. Donc moi, je serais pour arrêter tout moyen de transport, mais j'ai pas envie de revenir à la préhistoire. C'est pas une bonne solution, on est d'accord.
Elle aime se déplacer, hein, je vous assure.
À vélo, en même temps, ça pose pas trop de problèmes, à moins d'aller à plus de 50 km/h, mais j'ai jamais réussi.
Tu es trop parisienne.
Mais imaginez
ce podcast,
un petit
c'est trop parisien. Mmh. On l'a souvent.
Non, parce que tu peux faire du vélo en campagne sans faire beaucoup de bruit.
30 km de vélo pour aller au taf, je te prie de croire que tu les sens passer quand même.
Et alors, petite anecdote rigolote, pour faire un peu moins de bruit, tu peux essayer de couvrir le bruit.
Ouais.
Et sachez que EasyJet a sorti un album de bruit d'avion.
Non.
Puisque les bruits d'avion sont des bruits blancs. Donc c'est...
Ah, il y a des kinks de ouf sur YouTube, il y a des décompilations de 10 heures de bruit blanc.
Je bosse que sur du bruit blanc, moi. Je me mets vraiment des sons de cabine d'avion pour bosser et je bosse mieux. Donc je pense que ça équilibre un peu tout. Je saurais pas comment expliquer pourquoi le bruit blanc ça fait du bien, mais en fait, si t'as pas de changement trop brusque dans le bruit, c'est moins désagréable que si c'est constamment en changement.
Pro tips pour les gens qui ont des acouphènes, et j'en ai eu, si vous déjà mettez des bouchons en concert, ça je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Le bruit blanc, c'est très très bien pour faire passer les acouphènes.
Ah ouais. Très bien. Dernière question, du coup, pour terminer aussi la chronique et pour te laisser faire ta conclusion, y a-t-il aujourd'hui des répressions sur le bruit fait par les automobilistes ou peu importe
Alors, oui,
en ville ou ailleurs?
Mais c'est un peu compliqué. C'est hyper compliqué de mettre des amendes. On en parlait justement à la première émission où il y a ces radars anti-bruit. L'État français est sous-équipé en termes de sonomètres. Il faut savoir qu'en Île-de-France, il y a 10 sonomètres.
C'est tout.
Et en région, il y en a un par département. Donc c'est ridicule.
Alors,
en fait.
Tu sais quoi?
Mais non, tu vas me le dire.
Il y a un amendement qui a été passé une paire d'années, je ne sais plus exactement quoi. Justement, pour pallier ce défaut de sonomètre, il y a un sénateur, un député conservateur républicain, pour lutter contre les rodéos de motocross avait fait passer un truc comme quoi c'était à l'appréciation de l'agent, donc de police, qui pouvait si le bruit était trop nuisible, il pouvait le verbaliser comme il veut, ce qui a provoqué un tollé chez les motards qui a dit mais en fait t'as même plus besoin de sonomètre, juste lui il dit que tu déranges et paf,
il peut faire ses quotas.
Ouais,
et en plus je pense que ça marche pas parce que légalement si t'as pas de cadre légal tu peux pas mettre d'amende, tu peux pas déterminer c'est X euros pourtant, et en fait il y a un vrai problème de légalisation là-dessus.
Ouais, donc...
et à tel point que c'est limité normalement, par exemple je sais que pour les plus de 500 cm3 c'est maximum 80 décibels, sauf qu'il y a des voitures aujourd'hui qui sortent sur le marché et qui sont homologuées à 90 décibels, donc c'est débile en fait, parce que c'est à dire qu'il y a une législation et que les constructeurs sortent des choses qui font plus de bruit. Donc
et
là, on a un vrai souci, quoi.
Ouais.
Donc, c'est un peu flou. Pour conclure rapidement, je disais, j'étais pas forcément très positive sur l'avenir, parce que déjà, en fait, on va avoir de plus en plus de moyens de locomotion. C'est-à-dire qu'on peut faire des voitures électriques qui font moins de bruit, mais il y en aura peut-être deux fois plus dans 10 ans. Donc, on reviendra au même niveau de pollution sonore. Et puis, imaginez un peu quand on va coloniser les planètes autour de nous, qu'on va pas avoir des aéroports, mais enfin, des aéroports de fusées. Des spatioports. Imagine un peu la galère, quoi. Donc, ça veut dire que les gens pauvres ne pourront s'acheter que des maisons autour des spatioports, parce que ça coûtera rien. Il faut savoir que les maisons près de Roissy et Orly ne coûtent pas très cher. Donc voilà, moi je ne suis pas hyper, je ne vois pas de solution. Ma seule solution, et qui est évoquée dans pas mal de forums de moto, c'est d'éduquer les gens. C'est de dédiquer les gens ou prendre en compte les autres autour de nous, l'environnement et tout, que le bruit, ce n'est pas comme ça qu'on existe et ce n'est pas comme ça qu'on doit exister dans l'espace auprès des autres.
Merci beaucoup. Chloé.
Merci.
Encore une fois, vous êtes responsable du bruit que vous produisez. Voilà, essayez de faire attention autour de vous, automobilistes comme motards, comme le putain de mec qui crie dans la rue en marchant juste parce qu'il est pas content. tais-toi.
Raccroche ton téléphone.
Voilà, raccroche ton téléphone. J'en ai
il t'entend.
Voilà, j'en ai rien à faire de ta conversation. Merci beaucoup, Chloé.
Bah, avec plaisir.
On va passer immédiatement à la première news du podcast. C'est parti, petite news. Et c'est toi, Victor, qui va nous parler du coup de ta première news qui fait un peu rebond à la chronique de Chloé.
Tout à fait, parce que je vais vous parler d'Harley Davidson qui a repoussé sa moto électrique très récemment pour des problèmes de production et de qualité. Rien à voir avec la maison de podcast. Et du coup, ils ont reporté la livraison de leur première moto électrique à on ne sait pas quand, tout à fait, parce qu'ils ont eu des gros problèmes. Et en fait, ça rebondit un peu sur ta chronique, parce que Harley Davidson, ils ont complètement changé leur fusil d'épaule pour diversifier leur clientèle et pour un peu faire le virage du 21e siècle, qui était de dire bah, on va vous proposer une moto électrique qui ne fera pas de bruit. Et en fait, ils ont un peu essayé de décoder leur ADN qui fait la substance et la substantifique moelle de Harley Davidson, qui est donc une moto, c'est Freedom, the USA et tout. Il y a des gros tatoués avec des barbes et c'est très rigolo. Et en fait, ils ont fait tester ces motos-là à des motards chevronnés. Et en fait, ils se sont rendu compte que le bruit, c'était qu'une partie finalement très accessoire de truc. Ça faisait partie du plaisir, mais finalement, le cruising et être sur une Harley Davidson fabriquée aux États-Unis avec tout le discours qui va derrière, si elle fait pas de bruit, c'est pas très grave.
D'autant plus que ce qui fait aussi l'ADN de la marque Harley Davidson, c'est l'énorme couple que développent les motos. Ce sont pas des motos qui ont prétention à aller haut dans les tours pour développer le couple, ce sont des motos qui vont avoir du couple même à bas régime. De là, on entend tirer des caravanes, hein, quand même, et un moteur électrique, en fait, totalement adapté
à ce
type de consommation.
Tout à fait.
Voilà, très bien. Donc, aucune tollée des fans d'Harley Davidson.
Non,
c'est pas pour ça que la moto est repoussée.
Non, c'était vraiment pour des problèmes de production, ce qui fait un peu suer parce que du coup, ils avaient réussi à avoir une image un peu jeune et en plus, ça s'appelait Livewire. Donc, du coup, c'était un peu le côté électrique, concert, extraordinaire. On est jeune et branché. Et là, en fait, bah, pour le coup, ils sont un peu enquistés dans leur vieux truc. Mais comme toutes les marques traditionnelles qui n'ont jamais fait vraiment d'électrique, ils ont du mal à sortir leur ouais. modèle et à prendre le virage. Et moi, je souhaite qu'ils réussissent, mais pas trop vite. Et j'en vais en parler tout de suite.
D'accord. Justement, on va enchaîner avec la deuxième chronique. Et c'est toi, Victor, qui va nous parler de pollution de tout type de mobilité.
Ouais.
Victor, là on va parler de pollution réelle, de CO2, enfin, la pollution auditive est une pollution réelle, mais vraiment
oui,
de gaz à effet de serre rejeté dans l'atmosphère.
Tout à fait, je vais vous parler de voitures électriques, et de savoir si la voiture électrique c'est une solution définitive à notre mobilité personnelle qui pour l'instant est très carbonée, et je vais vous parler de deux mythes qui sont totalement opposés et pourtant tout à fait complémentaires. Le premier mythe, c'est la voiture électrique pollue plus que la voiture thermique. Alors, on a entendu ça des dizaines de fois. Je vais vous expliquer pourquoi c'est totalement faux. Et le double mythe...
Faux.
C'est faux, vraiment. Et chiffrement, c'est faux. Le deuxième mythe, c'est que la voiture électrique, du coup, serait une voiture propre, ce qui est aussi
faux.
Et également faux. Parce que la voiture, comme la moto, c'est un symbole social. C'est un moyen de transport qui est beaucoup chéri, beaucoup détesté et qui attire beaucoup de passion. J'ai moi-même un rapport vraiment complexe avec la voiture. J'ai une dissonance grandissante entre l'enfant de 5 ans qui survit en moi. Cet enfant de 5 ans, lui, il adore les bagnoles. Il a fait tous les salons automobiles de Paris sans exception depuis son plus jeune âge avec son père. Je bave sur la merveille technologique, esthétique et sur le plaisir qu'est la conduite avec les voitures modernes. Je trouve ça incroyable. Mais cet enfant de 5 ans, il est rattrapé par ma conscience écologique. Et la connaissance que j'ai du monde des transports et de l'impact de ce monde de transport sur l'environnement et nos vies. Parce qu'il faut dire que la voiture personnelle, aujourd'hui, c'est un problème majeur. Pour nous, nos villes, nos campagnes et tous les enfants de 5 ans qui naîtront un jour, s'ils naissent. Parce qu'aujourd'hui, la voiture personnelle et le monde des transports en général, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises soit directement par donc le fait qu'elles roulent, soit par leur entretien, leur construction, mais aussi toutes les opérations qui sont liées à la construction et à l'entretien des infrastructures qui sont nécessaires pour que ces véhicules circulent, donc soit la route ou toutes les infrastructures qu'il y a autour, les garages, les parkings, tout ça. Donc la voiture, ça pollue, c'est sûr. Mais de quelle pollution on parle ? Parce que là, je vous ai parlé que des effets de serre. Et dans le cas présent, ainsi que dans la plupart des politiques de bonus-malus pour les achats de véhicules neufs et pour toutes les mesures qu'on a prises politiquement sur les 20 dernières années, on se base uniquement sur les émissions en CO2 des véhicules. Mais c'est pas tout. Et je vais vous lire un tableau qui est tiré d'un rapport du Sénat sur les nuisances de l'automobile.
Merci.
Les nuisances de l'automobile, c'est du monoxyde de carbone, donc qui est mortel à très haute dose et qui cause des troubles respiratoires et cardiovasculaires, les oxydes d'azote, qui sont appelés NOx, qui sont aussi une belle saloperie qui
mortel. Nique
tes poumons et qui sont mortels, les particules fines dites PM10, donc qui sont des trucs qui sont très très fins, qui pénètrent profondément dans l'organisme et qui causent des différents troubles, pareil, respiratoires, pathologies cardiovasculaires, c'est génial. Des composés organiques volatiles, le benzène notamment, c'est classé comme cancérigène et c'est émis des pots d'échappement et des vapeurs tout d'essence et de diesel. Et le dioxyde de soufre, qui cause des pluies acides, en plus des maladies respiratoires et des cardiovasculaires.
Ça, c'est très mortel, ça.
Voilà.
C'est l'apocalypse.
Donc, c'est merveilleux. La combustion interne, c'est fantastique. L'automobile, donc, c'est toxique, en plus d'être mauvais pour l'effet de serre. Et en France, on estime à 48 000 morts par an les conséquences de la pollution de l'air. Mmh. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas lié uniquement aux voitures.
C'est vrai.
Mais ça joue un rôle prépondérant dans la qualité de l'air. Je vais vous mettre sur le forum un article du Monde, parce que je ne vais pas vous assommer avec tous les chiffres qui parlent de ça. Et notamment, par exemple, sur les émissions de particules et sur différents composés, c'est de 30 à 68% des émissions qui sont causées directement par les voitures. Donc, avec les nouvelles normes imposées aux conducteurs, ce point est en nette amélioration. La qualité de l'air aujourd'hui à Paris est bien meilleure que dans les années 70.
Merci
et même
les
avant.
Pots d'échappement, d'ailleurs.
Et rappelons quand même que le smog de Londres, par exemple, qui a été observé en 1952, ça a tué plus de 10 000 personnes.
Ah ouais.
En un smog. Donc, quand même, on a fait du chemin.
Je crois que c'est plus que tout ce que les centrales nucléaires défectueuses ont jamais tué sur Terre.
C'est possible. Et face à ce constat qui est terrible et sans appel, c'est que la voiture thermique, ça flingue la planète et nos santé. Donc c'est un problème qui est environnemental et sanitaire. Et bah, la voiture électrique, elle nous est vendue comme solution miracle. C'est fantastique, c'est une voiture zéro émission. C'est même marqué sur les Nissan Leaf derrière. Dans tous les spots de pub qu'on nous dit, il n'y a pas d'émission. Évidemment, c'est pas si simple. Et ça nous force à réfléchir à l'impact global des voitures électriques et des véhicules de façon générale. Il faut utiliser une méthode pour ça. C'est une méthode qui est connue de pas mal de choses, que ce soit pour le bâtiment ou pour plein d'autres produits. C'est l'analyse en cycle de vie. C'est-à-dire l'analyse des conséquences environnementales à tous les moments clés de la vie d'un produit, donc le produit voiture, que ce soit sa fabrication, son usage, son entretien, sa destruction et son éventuelle recyclabilité. Alors, on a attendu absolument tout et n'importe quoi. J'ai lu une étude et des articles qui disaient qu'un Hummer polluait moins qu'une Prius parce qu'une batterie, ça polluait beaucoup à produire. Ou qu'une vieille Twingo, eh ben, ça polluait moins qu'une Tesla neuve. Et souvent de fois, il y a des comparaisons qui sont extrêmement exhaustives sur les causes de la voiture, qui est de dire, oui, la voiture électrique, vous comprenez, l'électricité, elle ne s'abrique pas toute seule. Eh ben, je vous spoil, mais l'essence non plus.
Sans déconner.
Voilà. Wow.
Et alors, je vais vous faire une petite mise au point chiffrée. Et vu que je ne vais pas vous assommer de chiffres outre mesure, je vais mettre plein de choses sur le forum et la source de tous les chiffres que je vais vous avancer ici.
Merci
pour
beaucoup,
pouvoir
Victor.
Vérifier. Alors déjà, à la production, une voiture électrique, ça émet beaucoup, beaucoup plus qu'une voiture traditionnelle thermique.
Quand
ça,
même.
C'est vrai.
Ouais.
Ça pollue entre 50% de plus et 275% de plus. Donc, on pourrait produire trois voitures presque pour une voiture électrique, selon la taille des batteries. C'est-à-dire qu'entre une Nissan Leaf, qui a un pack de 30 kWh, et une Tesla qui peut avoir jusqu'à 100 kWh de pack de batterie, la production, c'est vraiment variable. En revanche, à l'usage, la voiture thermique, ça émet tellement de CO2 qu'il y a eu des calculs qui ont été faits que selon la taille du pack de batterie et selon le kilométrage parcouru par an, donc là on avait pris les kilométrages moyens parcourus annuels, donc avec un kilométrage parcouru annuel moyen, il faut entre 3,5 années et 5,5 années d'usage d'une voiture électrique pour qu'elle émette moins que la voiture thermique. Donc déjà en 5 ans, tu changes de voiture, si tu utilises plus que ça, t'es normalement pas déficitaire en termes de carbone. Et là, on parle juste d'émissions à effet de serre, sachant qu'une voiture électrique, ça n'émet pas de NOx, ça n'émet pas de dioxyde de...
Ni à la production,
Si, à la production, les batteries, ça peut être une vraie saloperie.
Donc si je résume juste, si j'ai une voiture électrique, je la jette au bout de 3 ans, là, c'est un peu problématique.
Mais il faut que tu la jettes au bout de 3 ans. Okay. Une voiture, normalement, ça, même les Autolib, y a n'importe quelle voiture, même les Tesla, aujourd'hui, ont plus une durée de vie supérieure à 5 ans.
Ok.
Sachant que dans ces calculs-là, on n'a pas pris en compte l'entretien de la voiture thermique, sachant qu'une voiture thermique, il faut changer l'huile, il y a beaucoup de consommables, beaucoup de pièces qu'il faut changer en termes de vie de la voiture, que ces pièces, il faut les produire, il faut les acheminer, il faut les monter sur la voiture, et que tout ça, c'est de la pollution, de beaucoup d'eau qui est consommée pour pas mal de pièces de voiture. Et il y a aussi l'extraction, le raffinement et le transport du pétrole, parce que là pareil je vous spoil, votre essence elle n'apparaît pas magiquement dans votre pompe à essence. Voilà, donc quand on fait vraiment une comparaison qui est vraiment complète et qui prend l'intégralité de ces facteurs, alors je vous évite de le faire vous-même, le MIT l'a fait. Le MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology, donc qui est une entité qui est quand même relativement sérieuse, et qui a mis en ligne un site avec une comparaison des émissions des modèles neufs des voitures thermiques hybrides et électriques aux États-Unis, et le résultat est sans appel. Les voitures électriques émettent 2 à 4 fois moins de gaz à effet de serre au cours de leur vie comparé à leurs homologues thermiques. Le site, si vous voulez y aller, donc en plus du lien que je vous mettrai sur le forum, ça s'appelle Carbon Counter, donc carbone comme le carbone mais sans E, counter, counter.com. Et vous avez un magnifique graphique avec une répartition à la fois du CO2 qui est émis par la voiture, mais également du dollar qu'il faut mettre par miles. Donc en gros, tu as un peu tout le spectre des voitures électriques, de la Smart Fortwo électrique qui coûte pas très cher à la Tesla Model S qui coûte un bras
et demi. Je te coupe deux secondes. C'est une étude du MIT, donc américaine. On n'a pas le même type de voiture, j'ai l'impression.
Non, alors après, ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même des ordres d'idées. Alors non seulement c'est pas les mêmes voitures, mais en plus le mix énergétique pour produire l'électricité n'est pas le même aux États-Unis en France.
Okay.
Alors je pense que c'est vraiment du doigt mouillé, mais sachant que les voitures aux États-Unis sont plus lourdes, mais que le mix énergétique est un peu moins. Vertueux. En France, ça voudrait dire que l'énergie est normalement moins carbonée et les véhicules sont plus légers, donc ça serait encore plus en avantage.
Ça sera plus en avantage de la voiture électrique.
Même en prenant des hypothèses conservateurs, c'est encore le cas.
On est d'accord que donc ce graphique fait le bilan énergétique total. La production à l'entretien, à l'utilisation d'une voiture sur le kilomètre
sur le rapporté
au mile par
voilà. Sachant que je vous mettrai, donc il n'y a pas qu'une seule étude qui a montré ça, il y a une étude de l'ADEME qui a été faite, il y a une multitude d'études qui s'en est occupée, et à chaque fois le résultat est le même, c'est que la voiture électrique c'est beaucoup plus efficace que leurs homologues thermiques, et c'est à ce point là tellement efficace que même si on utilisait de l'essence pour produire l'électricité, l'acheminer, donc la transformer, l'acheminer par câble, la mettre dans la voiture électrique et la faire rouler, la voiture électrique émettrait moins de CO2 que l'homologue thermique. Alors, si vous voulez le calcul complet, là, pareil, c'est un ingénieur qui l'a fait, je vous mettrai une vidéo sur YouTube, c'est en anglais dans le texte, mais le calcul est très bien fait, et même en prenant les hypothèses les plus défavorables, le véhicule électrique est toujours devant le véhicule thermique. Un miracle, donc eh bien non, parce que une partie des particules qui sont émises par les voitures ont tendance à être vite oubliées. Celle des microparticules de plastique des pneus et des plaquettes de frein, par exemple.
Là, là, là.
Les particules de pneus, ça représente un tiers. Alors, je suis plutôt tout à fait sûr de chiffres, mais vous le retrouvez dans l'ouvrage de Philippe Biwix, que je vous conseillerai tout à l'heure, de la pollution au plastique dans les rivières. L'autre pollution, c'est la sonore, dont vous a parlé Chloé, donc je vais pas revenir sur le fait qu'un véhicule au-dessus de 50 km/h, eh ben, on entend beaucoup plus les pneus que le moteur, donc ça réglera pas le problème. Et en fait, y a tout un tas de petites choses qui font que le véhicule électrique, c'est extrêmement compliqué, et il y a une pollution qui est extrêmement insidieuse, qui n'est pas juste une opposition manichéenne entre la voiture thermique qui est dégueulasse et la voiture électrique qui est très propre. Parce qu'en fait, l'écologie, c'est chiant.
Eh oui.
L'écologie, c'est chiant, c'est compliqué, ça demande des calculs qui sont longs, ça demande des informations qui sont complexes, qui sont vraiment pas faciles à utiliser et à communiquer pour le grand public. Donc je vais vous laisser sur le forum avec encore une fois une foultitude de liens et d'ouvrages à aller consulter si vous voulez aller plus loin. Alors je vais les classer un peu dans l'ordre croissant de complexitude, parce qu'il y a des conférences, genre il y a un TEDx de Laurent Castagnède qui est un spécialiste des transports et qui a publié un bouquin qui s'appelle La face obscure des transports. Il y a une petite vidéo d'une vingtaine de minutes, donc ça vous mettra en bouche, et ça va d'une petite vingtaine de minutes à une conférence d'1h40 que je vous posterai. Alors oui, je sais, pour les critiques, ce sera sur Thinkerview, c'est un vieux, c'est une chaîne YouTube conspirationniste de gauche, oulala, 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 mais les conférences sont très très intéressantes.
Anne Hidalgo, Anne Hidalgo, Anne Hidalgo.
Ouais, alors c'est plus à gauche qu'Anne Hidalgo. Mais je vais vous laisser avec quand même quelques arguments où la prochaine fois qu'on vous dira que la voiture électrique c'est une solution miracle, vous pourrez argumenter là-dessus. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est absolument incapable de remplacer l'intégralité du parc automobile personnel avec une voiture électrique. Déjà parce qu'on sera infoutu de produire l'électricité nécessaire pour enchaîner les kilomètres qu'il faut faire.
C'est pas vrai.
Ouais.
Battez-vous.
Il faudra démultiplier vraiment le nombre de centrales nucléaires de façon très très forte.
C'est ça.
Ce qui pose d'autres problèmes.
Oui.
Ce qui pose d'autres problèmes.
Mais on peut.
L'autre barrière qui va être vraiment très très forte, c'est qu'aujourd'hui, l'extraction des métaux rares et précieux pour créer les batteries, ça pose un vrai souci, non seulement environnemental pour les extraire, mais en plus, on n'est pas capable de produire le nombre de batteries nécessaires pour remplacer le parc automobile.
Ça, c'est vrai.
Sachant que ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Biwix qui est spécialiste de la question de l'énergie et des ressources. Je vous invite vraiment, vraiment à vous renseigner sur son bouquin qui s'appelle « L'âge des low-tech ». Et qui justement, lui, propose le fait qu'il faut changer de modèle. Et là, il faut changer de modèle aussi pour le véhicule personnel. C'est-à-dire que ça suffit les 1,5 tonnes de matière première pour déplacer 80 kilos d'un bonhomme ou d'une bonne femme.
Ah là là.
C'est tout le modèle de déplacement en véhicule personnel qui est à revoir complètement. La technologie ne pourra pas pallier toutes les conséquences négatives. La mobilité motorisée propre n'existe pas. Et ça, il faut être très clair là-dessus, c'est-à-dire que si vous vous déplacez avec un moteur, ce ne sera jamais propre, à part si vous êtes en vélo.
Il n'y a pas
et
de
encore,
moteur.
Un vélo, il faut le produire, donc il faut changer notre façon de voir les transports et de se poser la question, parce que les externalités négatives, donc les conséquences du transport, que ce soit pour la pollution sonore, pour nous ou notre environnement, il faut se poser la question de savoir si c'est soutenable ou pas. Et de ce questionnement... En fait, on arrêtera d'avoir des oppositions qui sont manichéennes et de vous vendre des produits qui vous feront rêver et qui vous feront totalement déculpabiliser. Vous roulerez en voiture électrique, vous direz « je n'ai pas d'impact sur l'environnement ». Mais si, et tout a un impact sur l'environnement. Et la question, c'est qu'il va falloir vraiment tenir nos politiques responsables des conséquences et des politiques qu'ils font en matière de transport. Donc je vais vous laisser là-dessus. C'est pas un message très... très très positif.
J'allais me pendre.
Ouais.
Mais en fait, je pense que c'est tout à fait nécessaire parce qu'en fait, en changeant de point de vue, c'est là qu'on posera les vraies questions et c'est là qu'on trouvera un modèle de mobilité où, clairement, on va pas retourner à l'âge de pierre. Voilà. Et donc, je vais vous laisser avec vraiment l'âge des low-tech de Philippe Biwix qui, lui, est pessimiste sur le constat actuel mais qui est vraiment optimiste sur les solutions qu'on peut mettre en place. Renseignez-vous et restez curieux.
Merci beaucoup,
merci.
Victor.
C'est joyeux tout ça. Hein.
C'est joyeux, mais c'est très très intéressant
bien
tout
sûr.
De même tout ce qui est dit. Donc oui, le véhicule électrique est en effet plus propre, quelle que soit la chaîne de production, que le véhicule thermique. Mais évidemment, ce n'est pas un véhicule propre, quoi qu'il arrive. Voilà ce qu'il faut conclure de ça. Et ce que met en évidence aussi ce graphique, c'est que si tu es seul à utiliser ta Tesla Model S et à faire tes trajets tous les jours, et si ton voisin à côté, avec son gros SUV, il emporte 6 personnes tous les jours et ne fait qu'au-le comme ça, eh bien son bilan et son impact aussi sera peut-être inférieur à celui qui roule en Tesla.
Je vous ferai aussi un... Justement, ça c'est toute une autre chronique sur le fait que le covoiturage, c'est a priori une solution écologique, mais qu'en fait, on a créé des déplacements qui avant n'étaient pas le cas, et qu'en fait, le bilan carbone de Blablacar, c'est vraiment pas reluisant. Malgré tous
aussi,
les arguments
c'est que ça transforme
le
pas les comportements problématiques, c'est ça.
Tu veux vraiment nous fusiller, quoi, en fait.
Non, en fait, je veux fusiller personne. Je veux juste qu'on arrête d'être hypocrite et de se dire que y a des moyens de ce déplacement et des solutions qui sont écologiques, c'est-à-dire le fait que Blablacar, par exemple, en France, ait permis des gens de se déplacer en covoiturage, c'est très bien en constat origine, sauf que par exemple quelqu'un qui fait un aller-retour à Strasbourg pour x ou y raison, il le ferait peut-être pas s'il remplissait pas sa voiture parce qu'il y aurait personne pour l'aider à payer ses coûts, et que l'étudiant qui est derrière pour aller faire la fête, s'il avait pas sa solution d'aller-retour à 50 balles, et bah juste il resterait chez lui. Et qu'en fait il y a une partie des politiques de transport, et Hidalgo l'a fait en premier, hein, c'est que quand tu mets des contraintes sur des déplacements, il y a une partie des déplacements qui se reportent. Donc par exemple, quand on a fermé les voies sur berge, il y a une partie du trafic qui s'est reporté sur les voies annexes, donc qui sont soit juste contiguës, soit sur le périphérique parisien, et t'as juste une partie du trafic qui s'est évaporée.
Voilà, c'est ça.
Et en fait, c'est le cas pour plein de choses. Donc le Blablacar, c'est cool parce qu'il y a des gens qui ont arrêté de se déplacer tout seul en bagnole. Sauf qu'en fait, t'as aussi créé des déplacements qui avant n'étaient pas, nécessaires. Et pour les voitures autonomes, ce sera pareil. Hein.
Ça me fait rebondir sur un article très drôle dont je voulais vous parler. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans plein d'autres émissions. C'est qui sont les plus gros pollueurs ? Alors, il faut savoir que les plus gros pollueurs en France sont les gens qui ont le plus de diplômes.
Non.
Oui. Je ne dis pas les gens les plus intelligents, c'est vraiment différent. C'est les gens qui ont le plus de diplômes, pour plein de raisons qui sont... je vous mettrai l'article, ou peut-être on en reparlera une autre fois. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est des gens qui, souvent, ont beaucoup plus de moyens de transport que d'autres. Je ne sais pas pourquoi. Ils vont avoir une voiture, une mobylette, trois vélos.
Bah, ils ont aussi les moyens de partir en week-end en avion.
Exactement, ils ne vont pas rester chez eux. C'est aussi ce qu'on appelle l'effet barbecue. C'est que quelqu'un qui est en banlieue, effectivement, va polluer plus parce qu'il va devoir faire des allers-retours pour aller au travail. Mais le week-end, il va rester chez lui autour de son barbecue. Là où la personne qui est méga diplômée va aller faire une conférence sur l'écologie en avion à l'autre bout de la France. Donc c'est un paradoxe assez intéressant sur les mauvais élèves pollueurs.
Mais Chloé, il y a aussi Le Monde qui a sorti un dossier là, il y a une petite semaine sur le fait que la plupart des gens qui étaient écolos, ils l'étaient malgré eux, et notamment les populations et les pays pauvres.
Mmh. Tout à fait.
Ils n'ont pas le choix. La culture de la débrouille, la culture du recyclage et tout, c'est juste qu'il y a des moments, et enfin, je dis dans les pays pauvres, mais c'est même chez nous, hein. Il y a des chômeurs, par exemple, et des gens qui ont peu de revenus, ils ont juste pas le choix que de récupérer des vivres qui sont périmés et que personne d'autre veut
bouffer. Oui, puis que de prendre le bus si on va sur la mobilité.
Et de réparer leurs fringues et de récupérer les trucs qui sont. Et en fait, c'est terrible, mais les riches qui se gargarisent d'avoir une Tesla, clairement, c'est ceux qui polluent le plus.
Tenons donc la solution pour sauver la planète, rendons tous les gens pauvres et nous...
Ou taxons les riches, par exemple, mais pas de politique, c'est ça ?
Taxons les riches, appauvrissons les riches, rendons les gens pauvres et ils pollueront moins tout par-delà.
On a des conclusions hyper gays aujourd'hui.
Mais il y a un truc.
Podcast de gauche radicale.
Je serais ravi, évidemment, de devenir pauvre. On va enchaîner avec la deuxième news et c'est moi qui vais me lancer, si vous le voulez bien. C'est parti, deuxième news. Alors, vous parliez un tout petit peu de mobilité autonome qui créerait justement des besoins que certains n'avaient pas juste avant. Eh bien, sachez que c'est lancé. Ça y est, les premiers essais en France de véhicules autonomes ont été lancés début octobre. C'est Renault qui va lancer ça sur le plateau de Saclay à Paris en lançant plusieurs séries de véhicules qui vont permettre dans un premier temps de déplacer des populations au sein d'un campus, étudiants, enseignants, chercheurs, entrepreneurs ou personnel administratif à l'intérieur d'un campus. Donc on est sur un espace très restreint. Les essais vont s'étendre du coup à la fameuse navette autonome qui devrait lier nos villes à nos aéroports en périphérie.
C'est super écologique, ça.
Il devrait rentrer aussi en tête.
Ah, ça, j'adore. Franchement, l'argument écologique de la navette autonome, c'est extraordinaire. Tu relis des campus de constructeurs automobiles à des aéroports avec des navettes qui consomment une quantité de données fantastique.
Eh oui. Et alors ça, évidemment, je ne sais pas quelle quantité serveurs sont là. En tout cas, vous savez, si vous étiez au dernier salon de l'auto, que la plupart des choses qui faisaient un tout petit peu le buzz sur le stand Renault, ça n'était pas le relooking de la nouvelle Clio, bien entendu, c'était la profusion incroyable de véhicules autonomes et de navettes de mobilité autonome, c'est-à-dire des véhicules sans chauffeur qui permettraient de transporter plus de passagers, et bien sans qu'il y ait besoin de moindre conducteur. Voilà, c'est en train de te faire. Des Zoé autonomes sont aussi en ce moment même à l'essai. Je ne dis pas que c'est écologique, mon très cher Victor.
Non, non, mais est-ce que tu te souviens ou est-ce que tu te rappelles avec quoi était venu Volvo au salon de l'auto?
Leur dernier gros 4x4 C90, non?
C'était venu avec rien.
Avec rien?
Ils avaient un stand de rien où ils disaient qu'en fait, ils n'allaient plus faire de voiture, mais qu'ils allaient faire du mobility as a service. Et donc, du coup, que dans 10-15 ans, le futur de ce qu'ils voyaient eux-mêmes, c'est qu'en gros, ils ne feraient plus de véhicules en tant que tels, mais qu'ils vous rendraient un service. Donc, ils étaient là avec une tablette.
Mais c'est incroyable.
C'est vrai, c'est intéressant.
Mais c'est génial. Hein.
Bah coup, ouais. C'est incroyable parce que j'étais au salon de l'auto il y a 4 ans, et il y a 4 ans, ils présentaient probablement le plus gros 4x4 de tout le salon qui coûtait probablement le plus cher.
Écoute, il n'y a pas que nous qui avons des dissonances.
Volvo aussi.
C'est vraiment merveilleux. Voilà, les essais ont commencé. On vous tiendra peut-être au courant dans Commut.
Renault, contactez-nous s'il vous plaît, on teste.
Ouais. Voilà. Donc, si vous voulez.
Sur Crash
Porsche aussi, Porsche aussi.
Tout à fait. Donc,
surtout Porsche.
Il crache dessus, je ne crache pas dessus, contactez-moi bien entendu si vous voulez. On va attaquer du coup la troisième chronique et c'est la mienne. Et c'est très bien parce que nos chroniques se font écho les unes les autres. Je vais vous parler de l'avion propre. Existe-t-il? Oui ou non? C'est parti. L'avion propre existe-t-il? Il y a quelques mois, la NASA vient de débloquer 6 milliards de dollars pour développer un prototype d'avion fonctionnant à l'hydrogène, une énergie alternative dont vous avez probablement tous entendu parler. Énergie miraculeuse, le dihydrogène rentre dans le moteur, produit de l'eau, c'est formidable, nous pouvons récupérer cette eau, la boire. On a vu énormément de youtubeurs tester sur leurs véhicules à hydrogène, c'est vraiment fantastique. Est-ce si fantastique? Je sais, je pense que vous avez d'ores et déjà la réponse. Déjà, un petit constat. 2% des émissions du CO2 dans le monde sont produites par l'aviation, par les avions de ligne. Donc 2% de tout ce qui est émis dans le monde est émis par
c'est
ça.
Beaucoup,
évidemment, c'est énorme. Un simple Paris-New York rejette une tonne de CO2 dans l'atmosphère, ce qui est équivalent à l'impact de CO2 d'un être humain durant une année entière passée sur Terre. C'est évidemment gigantesque. 37 millions de vols par an, soit 1,16 vols par seconde enregistrés en 2017. Notez, cela dit, on est dans un podcast sur la mobilité pour les sceptiques, que vous avez une chance sur 7 400 000 d'avoir un accident d'avion.
Mais vraiment, on est en forme ce soir.
C'est ni plus ni moins que le mode de transport le plus sûr au monde.
Mais pas écolo.
Il n'existe aucun mode. Même la marche à pied est un mode de transport
plus
moins sûr,
plus
dangereux que l'avion.
Aïe, je peux
vous l'assurer.
Mais attends, tu m'as dit, il y a combien de vols par an?
Il y a 1,16 vols à la seconde, ce qui fait 37 millions de vols par an.
T'imagines, même s'il y avait 0,001%, il y aurait genre 300 avions qui se plantent par année, quoi.
Ouais.
Donc on n'est pas du tout à ça, quoi. Genre, c'est un mode de transport parfait, quoi.
Ouais, non, mais c'est exactement ça. En plus, on parle d'accident.
Ouais.
Je sais pas, même pas de truc mortel.
Même pas de mort, ouais, non.
Même pas de truc mortel.
En accident en avion, t'as quand même rarement des survivants.
Alors, c'est faux, parce que justement, la plupart des accidents d'avion se provoquent au décollage ou à l'atterrissage.
Ok.
Et à l'atterrissage, si le pilote a plus ou moins fait une boulette, c'est très rarement létal. Au décollage, bon,
c'est
ça envie d'un peu du cul.
Ouais, enfin, au décollage, t'es plein de kérosène et t'exploses.
Si tu décroches au décollage plein de kérosène, c'est pas fou. Quoi.
C'est...
Du coup, tu réduis ta dette environnementale très très rapidement parce que tu ne vis plus.
Donc, hein, évidemment...
Ouais.
Évidemment, le moteur à kérosène est un problème et vient du coup la question de si on ne pouvait pas faire voler les avions autrement. La réponse actuellement, elle est non. Il n'existe pas actuellement de moyens de faire voler des avions de ligne qui transportent énormément de passagers.
Oui, parce que l'avion solaire, autrement. Du coup, ça, tu n'arriveras pas à transporter autant de gens, c'est ça ?
Alors, les problèmes sont plus complexes. Il y a déjà un problème de poids évident, puisqu'il va falloir reproduire évidemment le poids d'un avion sans l'alourdir avec d'autres moyens pour qu'il puisse tout de même voler. Et en ça, je vais faire un tout petit peu, du coup, Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point l'essence est un produit merveilleux, un produit miraculeux.
Tu as changé, Ken.
Je n'ai pas changé. Si, je vais vous expliquer pourquoi c'est miraculeux. C'est le seul combustible qui est liquide à notre pression ambiante et à notre température ambiante. Juste brûler un seul litre d'essence produit 9 kWh d'énergie. C'est gigantesque. C'est absolument gigantesque.
Est-ce que tu as un moyen de comparaison avec un autre truc ?
Je vais justement vous donner un tout petit peu tous les moyens de... Enfin, tous les chiffres comparatifs.
Parce que je ne me rends pas compte, là, quand tu me dis ça.
Par rapport à tout ça, oui, c'est vrai que... C'est vrai que c'est pas...
Attends, 9 kWh, donc ça veut dire qu'un litre d'essence...
Ouais.
Tu fais 10 litres d'essence, tu as un pack de batterie Tesla ?
Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Alors, j'avais fait les calculs un peu bâtards sur le Model 3, mais je vous passerai ça sur le forum. J'avais fait des comparatifs sur une Model 3 d'un automobiliste qui roulerait vraiment très mal en composition, en mix sur une Model 3, et d'un automobiliste qui, sur une BMW série 3, serait l'automobiliste parfait, qui maintiendrait ses 4,7 litres au 100. Je fais un comparatif, évidemment, en termes d'argent que ça coûte et en termes de bilan énergétique. Et bien, même si le conducteur de Model 3 roule le pire possible, et bien, en électrique, il payera toujours, au moins minimum, deux fois plus pour recharger son véhicule, donc okay, pour se déplacer au kilomètre, qu'un utilisateur d'une série 3 diesel. Voilà. Mais oui.
Attends, j'ai pas compris.
En gros,
ça te coûtera plus cher de recharger ton véhicule électrique.
Non, au kilomètre, tu vois, si tu es le meilleur conducteur d'une série 3 diesel, ouais, et si tu es le pire conducteur d'une Tesla Model 3, tu payeras 700 euros par an d'électricité avec ta Model 3, tu payeras 1500 euros par an.
Ah oui, donc du coup, ça va complètement contre, voilà, le fait que l'essence est énergétiquement efficace.
Alors, ça, je te parle en bilan financier.
Ah oui, d'accord. Hein,
d'accord, en bilan financier. Voilà. En bilan énergétique, oui, l'essence n'est pas efficace. Pourquoi ? Parce que le rendement du moteur thermique n'est que de 25%. C'est-à-dire que cette énergie dont je vous parlais, l'énergie d'un litre d'essence brûlée, produit 9 kWh d'énergie. Mais le problème, c'est que l'énergie qui sort de votre voiture, ce n'est pas les 9 kWh. C'est ça divisé par 4. C'est donc 2 et quelques.
Mais où disparaît toute l'énergie ?
L'énergie disparaît dans tout l'engrenage du moteur. Tu vois, on transmet un moteur, une translation vers une rotation, vers des axes de rotation différents. Parfois même un arbre de transmission qui transmet tout ça à l'arrière. Tout ça, ça produit des pertes.
Ouais, puis même juste l'explosion en elle-même, il y a beaucoup de pertes juste en chaleur, en fait.
Tout
à fait. C'est du chaud et ça se transformera pas en mouvement.
Tout à fait, exactement. Ainsi, donc voilà, une voiture qui consomme 7 litres au 100 va consommer en gros 63 kWh au 100 km. C'est quand même vraiment beaucoup, mais c'est quand même assez puissant, puisque quel que soit l'outil que l'on utilise, eh bien, rien n'arrive à un bilan énergétique aussi important. Le gaz, on a vu déjà le GPL, pareil, bilan énergétique inférieur à 9 kWh au litre de gaz. Et on va arriver du coup à ce qui nous intéresse, l'hydrogène ou le dihydrogène. Donc c'est là-dessus que penche évidemment la NASA pour ses avions, et c'est quelque chose qui semble assez miraculeux et écologiquement propre, et ça fait écho à ta chronique, à mon très cher Victor, puisque un truc qui rejette que de l'eau, c'est vraiment bien, ce n'est pas mortel. Qu'est-ce qui pourrait arriver de terrible là-dedans ?
Dis-nous tout.
Eh bien, le truc terrible, c'est que l'hydrogène, ça n'existe pas sur Terre, le dihydrogène. Donc, il faut le produire, le dihydrogène. Et comment est-ce que l'on produit le dihydrogène ? Je m'en remets à vous.
Je crois que c'est un processus très complexe d'hydrolyse ou d'électrolyse.
Hydrolyse est une méthode, en effet, de production d'hydrogène, mais ce n'est qu'1% de la production actuellement d'hydrogène. D'après vous, qu'est-ce qu'on utilise? Quelle est la matière première pour fabriquer de l'hydrogène aujourd'hui?
L'eau.
De l'électricité?
Pas l'eau, non.
Du pétrole?
Du pétrole.
Mais non.
Exactement, du pétrole.
Nice.
Aujourd'hui, 90% de la production d'hydrogène vient de la matière fossile. Donc, ce soit du pétrole, mais principalement du gaz, du méthane. Voilà. Donc, quoi qu'il
Est-ce
arrive.
Est-ce que tu serais pas en train de me dire qu'on est en train de transformer de l'énergie fossile en énergie propre?
C'est exact.
Ah, j'adore.
C'est exactement
Quelle enfumerie.
C'est exactement ça. En effet, aujourd'hui, 90% est là. Et pourquoi 90% c'est comme ça? Parce que c'est vraiment la méthode la plus industrielle possible pour produire du dihydrogène. Évidemment, vous vous doutez bien que lorsque l'on fait la réaction chimique qui permet de produire le dihydrogène, on rejette du CO2, on rejette tout ça, enfin c'est terrible. On peut aussi utiliser donc l'électrolyse de l'eau ou la thermolyse de l'eau. Donc l'électrolyse de l'eau, c'est pareil, on fait passer un énorme courant, donc il faut beaucoup d'énergie pour casser les atomes d'hydrogène et d'oxygène dans l'eau afin d'en sortir du dioxygène et du dihydrogène. Et l'autre solution reste la thermolyse de l'eau. Donc la thermolyse de l'eau, c'est chauffer l'eau très fort, entre 600 et 1300 degrés, juste pour vous donner une espèce de point de référence, une centrale nucléaire. Donc, si vous connaissez les fonctionnements d'une centrale nucléaire, oui. Une centrale nucléaire, c'est juste un truc qui chauffe beaucoup et qui produit de la chaleur. C'est la chaleur qui produit du coup l'énergie. Voilà, l'énergie produite, c'est la chaleur, exactement comme une centrale à charbon, en fait. Il n'y a pas de différence, sauf que ce qui produit de l'énergie, eh bien, à l'intérieur...
peut nous faire muter.
Oui, c'est ça, ça peut nous faire muter, mais ne t'en fais pas, il ne peut rien arriver.
Tu ne seras pas X-Men, tu auras juste un gros cancer dégueulasse. Voilà.
Merci pour cette soirée, les gars.
Une centrale nucléaire fait monter la température de l'eau aux alentours de 300, 400
degrés. Parce que j'allais avoir la solution, sinon, effectivement, reprends l'eau chaude des centrales.
Et pourtant, ça chauffe énormément, et ça chauffe pas assez. Donc, c'est pour vous dire l'énergie qu'il faut produire pour chauffer l'eau autant, vers 600 000
Mais, alors, peut-être que tu t'y connais pas assez en technique, mais je me pose la question, si tu fais chauffer de l'eau à 1300 degrés, elle s'évapore?
Ah bah elle s'évapore à partir de 100 degrés, bien sûr.
Pas quand elle est sous pression, mais il ne s'agit pas de souffler dans l'oreillette.
Non, il ne s'agit pas de réaliser l'eau liquide. En plus, la pression atmosphérique, enfin la pression que tu mets, peut aussi conditionner l'état de tes éléments, mais nous allons bien entendu revenir là-dessus juste après. Bon, bref, les agrocarburants sont aussi un moyen de produire dihydrogène. Donc voilà, avec le carburant.
Qu'est-ce que c'est les agrocarburants?
Le carburant propre, l'éthanol que l'on met à l'intérieur de ton moteur.
On peut faire de l'hydrogène avec ça?
On peut en faire par des procédés à peu près similaires aux combustibles fossiles.
D'accord. Voilà,
c'est possible. Alors, mais
l'agrocarburant qui a un impact environnemental absolument catastrophique pour nos surfaces cultivées, je vous le précise quand même. Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, mais c'est vrai, et ça a tel impact terrible que là aussi les rendements sont terribles. Il est impossible de produire du hydrogène à grande échelle avec cette méthode-là. Hein. Vraiment, la méthode la plus envisageable aujourd'hui, si on voulait vraiment produire du hydrogène en masse pour faire fonctionner tous nos véhicules en hydrogène, ce serait brûler de l'essence ou du gaz, ce qui est quand même absolument terrible. Donc,
mais la NASA a mis 6 milliards.
Oui, mais tu vas voir pourquoi quand même c'est ça peut
parce
être,
qu'ils
ça
vont foutre de l'eau au cul des fusées qui vont décoller et ils vont faire de l'hydrogène.
En fait, c'est exactement comme tu le disais, Victor. En vrai, même si on utilisait de l'essence pour produire l'énergie qui rechargerait nos véhicules électriques, on arriverait tout de même à un bilan énergétique meilleur que si on les mettait directement à l'intérieur de sens. Donc, de toute façon, on arrive à un bilan énergétique qui est un peu meilleur. Mais oui, il faut beaucoup, beaucoup d'énergie pour l'hydrogène. Deuxième problème du hydrogène, l'hydrogène, ça se trouve à nos pressions, à nos températures, à l'état gazeux. Donc, c'est extrêmement volatile, très difficilement acheminable. Et malheureusement, le volume pris par le dihydrogène est évidemment différent en fonction de la compression de ce dernier. Ainsi, lorsque vous comprimez le dihydrogène à 350 bars, eh bien, voilà.
Beau pneu de vélo.
Ouais, c'est ça, c'est, 300, c'est une unité de pression. Imaginez, vous avez 60 000 litres de dihydrogène à température ambiante. 60 000. Pour en faire 20 litres, il faut le comprimer à 350 bars. Déjà, pas mal le comprimer. Pour en faire 125 litres, il faut le comprimer à 700 bars. Mm-hmm. Donc vraiment, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Pour en faire combien ? 25
litres ? Pour en faire 125 litres. Il faut comprimer à 700 bars. Et le problème, c'est que même comprimé à 700 bars, 1 litre de dihydrogène comprimé à 700 bars ne produira que 1,4 kWh d'énergie. Ce qui est juste 8 fois moins qu'un litre de c'est pétrole ça. Brûlé. La solution
Tu te rends compte l'énergie qu'il va falloir déployer pour juste comprimer à 700 bars un truc dont on en a chié pour produire.
C'est déjà ce que l'on fait, mon très cher Victor. C'est déjà ce que l'on fait. Aujourd'hui, donc, la seule solution relativement viable, vous allez voir pourquoi relativement viable, pour tirer parti de beaucoup d'énergie d'un litre de dihydrogène, c'est de le liquéfier. Et pour le liquéfier, il n'existe pas beaucoup de solutions. Il faut refroidir le dihydrogène, ce qu'on appelle l'hydrogène liquide. Et pour le refroidir, à combien faut-il le mettre ? Quelle température, d'après vous ?
Moi, je dirais moins 60.
Moins 270, on est proche du zéro absolu, oui. Qui est moins 273, c'est quand même un peu abusé. on va aller quand même moins haut, mais t'es pas loin, en vrai.
Ah ouais ?
Ouais, il est pas loin.
Il est pas loin.
Il est pas loin.
Ça, j'aurais dit moins 60. Mais alors, en fait, j'étais tellement loin.
Non, mais vous savez que le truc, c'est que dès qu'on se rapproche du zéro absolu, c'est comme une limite en mathématiques. Ouais, je vous invite à écouter Trajectoire sur qualité. C'est que vraiment, il faut vraiment refroidir beaucoup plus pour gagner à chaque fois 2 ou 3 degrés en moins. Donc, c'est 253 degrés Celsius, moins 253.
Et alors, comment on fait ?
On refroidit.
Avec quelle énergie
on utilise beaucoup d'énergie.
Mais c'est débile en fait. Mais tout est débile dans le processus de fabrication de.
C'est un peu le sujet de la chronique.
et donc
pourquoi la NASA a foutu 6 milliards ?
C'est le sujet des 3 thèses que je vous ai lues, que j'ai lues pour refaire
c'est vrai
ce sujet, qui sont tous équivalents. Alors je vais vous expliquer pourquoi, quand même, ça a tout de même de l'intérêt, parce que oui, on va s'y retrouver quand même à la fin. Donc qu'est-ce qu'on en fait de ce dihydrogène ? Il y a deux moyens de faire fonctionner des moteurs électriques. Des moteurs à hydrogène. Premier moyen. Bon, on fout l'hydrogène directement dans un moteur à combustion classique. Ça fonctionne. Le mélange hydrogène-oxygène crée une explosion et va créer de l'énergie qui alimente un cylindre piston. De l'eau va sortir.
Mais du coup, c'est pas super efficace.
Non seulement c'est pas super efficace, mais le rendement est encore pire que le rendement à l'essence. Donc déjà, vous avez un réservoir qui est bien moins important du fait de la taille que prend évidemment l'hydrogène sous forme gazeuse, mais en plus, vous n'avez rien tiré.
Donc en fait, tu vas être à cheval sur une bonbonne butte à gaz pour faire 50 mètres.
Aujourd'hui, les voitures qui fonctionnent à l'hydrogène font beaucoup plus que ça. Elles en braquent des gros réservoirs. Mais oui, tu vas pas très loin. D'accord. Encore moins loin que la voiture électrique, pour vous dire la vérité. Donc, en vrai, pour les voitures, c'est pas très efficace. Mais il existe un autre procédé qui est beaucoup plus rentable, c'est de faire des piles à combustible de ce dihydrogène. Donc les piles à combustible, c'est globalement des piles qui vont alimenter des moteurs électriques. Donc la voiture ou le véhicule à hydrogène sera principalement un véhicule électrique. Et c'est vers ça que les avions se penchent. Okay. Donc, qu'on comprenne bien, les avions à l'hydrogène seront des avions électriques.
Avec des très D'accord. grosses piles.
Avec des grosses piles, tout simplement, ce qu'on appelle des piles à combustible.
Okay.
Le truc, c'est que ces piles à combustible, évidemment, elles ne fonctionnent pas tout seules. Et on parle, bien entendu, du lithium et de tous les matériaux rares qu'il faut extraire et produire pour faire les piles classiques, qui sont encore des piles lithium-ion, même si aujourd'hui, il y a le graphène, il y a tout un tas de technologies qui rentrent en compte. Pour la pile à combustible, c'est le platine qu'il faut extraire. Et le platine, il y en a peu sur Terre. Ça coûte cher. Et c'est très, 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 très rare.
Ouais.
Et malheureusement, on a très peu d'autres matériaux pour créer des piles à combustible comme ça. Vous l'avez compris, la grande échelle du dihydrogène dans notre mode de mobilité est absolument inenvisageable. Ne serait-ce que pour des raisons d'acheminement. Même si on utilise les pipelines déjà existants qui transmettent le gaz, il faudrait des pipelines en plus pour acheminer l'hydrogène aux stations-service qui permettraient de recharger nos véhicules. Il faudrait quand même de l'énergie pour les maintenir à 700 bars de compression. L'hydrogène étant très volatile, eh bien, il pose un autre problème, c'est que si vous remplissez votre réacteur, votre moteur, pardon, enfin, votre réservoir d'hydrogène, si vous le laissez là, donc vous ne touchez à rien, eh bien, au bout d'un moment, l'hydrogène va tout de même s'évaporer, va quitter le véhicule et va vous offrir moins d'autonomie, moins d'énergie. Donc, c'est-à-dire,
c'est merveilleux, il y a tout pour plaire dans cette énergie-là, dis donc.
Mais ça fait de l'eau à la fin.
Oui, ça fait de l'eau à la fin.
Bah écoute, je vais t'acheter une bouteille de Volvic, ce sera quand même vachement plus rapide.
En mode gourde.
Vous l'avez compris, comme dans la chronique de Victor, pensons bien, lorsqu'on pense mobilité, quand on pense énergie liée à la mobilité, comment cette énergie est produite, évidemment, avant qu'elle nous serve dedans. C'est pour ça que le modèle électrique, bien que utopique sur l'ensemble de la planète, est un modèle assez facile, puisque l'électricité produite arrive directement dans les véhicules qui nous propulsent directement avec un rendement de 50%. Donc, c'est le modèle qui a le moins de pertes, dont le réseau est déjà totalement installé et qui peut nous permettre, évidemment, de nous déplacer avec un rendement relativement acceptable. Les avions, maintenant. Comment produire et pourquoi on investit 6 milliards dans l'avion à hydrogène? Vous l'avez compris, le seul moyen de faire voler les avions pour pas trop, pour qu'ils ne s'alourdissent pas énormément, c'est de transformer l'hydrogène en hydrogène liquide, donc le maintenir à moins 253 degrés. L'avantage de l'avion, c'est que une fois chargé avec cet hydrogène liquide, il va effectuer le vol immédiatement. Il n'y a donc pas d'avions qui vont rester à plein et donc avoir du hydrogène qui va s'évaporer ou s'enfuir. Il va voyager systématiquement à plein. De plus, les aéroports peuvent être équipés, eux, puisqu'ils sont relativement peu nombreux, entre guillemets, de postes avec du hydrogène déjà disponible ici. On peut les acheminer dans un aéroport. Acheminer de l'hydrogène dans toutes les stations-service du monde, c'est inenvisageable.
Je veux dire, vu qu'on a des hubs qui sont très concentrés.
Voilà. On a plus de facilité, en tout cas, à nous approvisionner en hydrogène. Et ensuite, eh bien qu'il faille remanier un tout petit peu ce à quoi ressembleraient nos avions aujourd'hui, eh bien, ça reste du coup le moyen de produire le plus d'énergie sans alourdir de trop un avion. La pile classique telle que l'on a actuellement dans les voitures électriques est vraiment beaucoup trop lourd. L'hydrogène liquide, l'hydrogène, ça ne pèse rien en vérité. C'est vraiment super léger. Et ce qui pèse beaucoup, c'est la pile à combustible du coup qui l'accompagne. Mais cette pile à combustible va quand même peser moins que tout un système de piles classiques de recharge et de moteurs électriques.
L'essence, on disait un litre d'essence, c'est quand même relativement lourd comparé à 125 litres d'un gaz.
C'est pas moins lourd que l'eau, l'essence?
Je n'ai absolument aucune idée.
Il me semble que la densité de l'essence, elle est. C'est moins lourd que l'eau, l'essence.
Oui, mais ça pèse quand même plus qu'un gaz liquéfié.
Tu
disais que c'était léger il y a 2 ans.
Oui, alors que le dihydrogène liquéfié, oui.
Oui, c'est ça.
Oui, probablement. Mais.
Là, on est sur la pile.
Ouais. Que le dihydrogène en gaz, pas forcément.
Et le réservoir qui allait avec, donc on peut peut-être retomber un peu sur nos pieds.
Ouais.
Mais est-ce que ça existe déjà, ces avions?
Oui, ça existe déjà. Il y a déjà des prototypes qui volent et qui sont actuellement à l'étude, donc des petits prototypes, donc pour des avions qui ne consomment évidemment pas beaucoup, qui ne transportent pas beaucoup de passagers. Le truc, c'est qu'il va falloir trouver des moyens de transporter énormément de passagers pour que ce soit bien entendu rentable. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir créer réellement des ailes complètes qui seraient autant de piles à combustible qui alimenteraient un moteur électrique surpuissant pour faire décoller les avions. Je me retourne évidemment vers Quentin, mais un avion en vol ne consomme quand même beaucoup moins d'énergie que lorsqu'il décolle ou quand il va se mettre à atterrir. Donc la consommation, en tout cas en vol d'un avion, peut être relativement limitée. Évidemment, il va falloir faire un gros travail sur l'aérodynamique des avions, mais aussi sur la logique de transport de manière générale, puisque au bout, arrivé à un certain point, l'avion ne pourra malheureusement pas voler. En conclusion, un tout petit peu de cette chronique, l'alternative hydrogène peut être justement une bonne alternative pour l'aviation, mais les travaux doivent encore continuer pour faire des avions réellement utilisables dans de grands trajets. En dehors de ça, malheureusement, il n'existe aucun autre moyen, si ce n'est améliorer les rendements, diminuer la consommation des réacteurs d'avions, de diminuer l'impact écologique de l'avion. Je vous renvoie du coup à vos responsabilités. Il n'existe pas d'autre moyen de faire attention au monde qui nous entoure que d'être responsable. Si vous avez évidemment des transports à faire et qu'ils sont évitables en avion, évitez absolument l'avion. C'est le pire transport possible en termes de pollution. Et j'ajoute à ça, et c'est pas Quentin qui va me contredire, que y aura de moins en moins de pilotes, puisqu'on est dans une phase, dans une pénurie de pilotes. Du coup, un peu de désengorgement du trafic aérien ne fera que du bien à l'aviation. Voilà.
Et pourtant, on est sur une prévision d'augmentation annuelle de l'aviation, ouais, qui est de 5% par an, donc
fait,
de doublement tous les 15 ans.
Tout à fait.
C'est une folie furieuse, sachant que, j'ai pas spécialement de source, c'est des trucs que j'ai lus il y a longtemps, mais les émissions de brûlis de kérosène à très haute altitude, c'est autrement plus polluant que ta Twingo qui roule...
Ouais.
Dans
mais
Paris.
C'est plus dur d'aller à New York en Twingo.
Ouais, ouais.
Exactement. Il restera de toute façon toujours des endroits où on veut s'y rendre, ne serait-ce pour nos loisirs. On va quand même pas blâmer nos loisirs ou pour des raisons professionnelles.
Je vais quand même pas arrêter d'aller au Japon, Yann.
Je vais quand même pas arrêter d'aller au Japon, s'il vous plaît. Ou je serai obligé de prendre l'avion.
Non, mais je pose la question. Moi, je me force à me. C'est mon challenge 2019 et que je compte bien continuer. C'est que je fais qu'un trajet aller-retour d'avion par an.
Non, mais je vais pas au Japon aussi souvent.
Ok, tu as pris combien de fois l'avion en 2019?
En 2019, deux fois.
C'est bien.
T'as été combien de fois au Japon dans les 5 dernières années?
Les 5 dernières années, deux fois.
Putain, ça fait des heures de vol, non?
Ouais, que deux fois. J'ai des collègues qui travaillent chez jeuxvideo.com qui font des voyages en avion.
Ah bah oui, non mais là, bien sûr.
Sachant qu'on n'a pas parlé de ça, parce que c'est très compliqué et je pense que ça prendrait 8 chroniques, mais il me semble que des vols long courrier de plus de 10 heures, c'est moins polluant que de prendre deux avions de 5 heures.
C'est ça.
Donc du coup, il y a aussi tout ça à réfléchir.
Après, tu as des logiques, tu vois, par exemple, les logiques de compagnie aérienne, le calcul environnemental compte absolument pas, tu vois. Par exemple, aux États-Unis, tous les aéroports, tout est organisé en hubs qui font des relais, et en fait, juste logistiquement parlant, eux, c'est bien plus intéressant de faire des vols qui sont semi-directs ou
des sauts,
trucs que de faire des vols long courrier.
Hein, oui. Même économiquement, nous dit Quentin, on s'y retrouve aussi, c'est vrai. L'avion coûte pas si cher que ça,
mais
c'est terrible.
Moi, par exemple, j'ai le même objectif que toi, qui est de dire que j'arrête de prendre l'avion tous les ans. Là, j'ai été obligé pour le travail. Croyez-moi que c'était pas mon choix, même si je vais pas me plaindre d'avoir passé 3 semaines au Maroc. Mais clairement, mon impact environnemental au Maroc, c'était n'importe quoi. Enfin, on avait des bouteilles d'eau tous les jours qui étaient distribuées. Enfin, c'était on n'était pas du tout dans le même délire.
Après, l'avion serait parti sans toi quand même. Hein,
non, mais bien sûr. Mais en même temps, ça, tu vois, c'est pas une raison. C'est-à-dire que tu peux pas dire ah bah oui, puisque l'avion est parti sans moi, du coup, faut que je le remplisse. Tu vois, genre,
c'est un effort commun là dont
on
parle.
Bien sûr, c'est un effort commun. Et surtout, j'en ai pas parlé. Mais je pense qu'on en reparlera à un autre moment de la mobilité subventionnée. Mais par exemple, la mairie de Lisbonne paye des compagnies aériennes pour remplir des avions à perte avec des trucs où tu payes 55 euros ton billet pour aller à Lisbonne alors qu'il en coûterait 200 normalement juste pour qu'ils remplissent les touristes. Et du coup, t'as des moyens de transport écologiquement complètement irresponsables qui sont subventionnés par le public. Hein.
Après, on pourra en parler, mais est-ce que le problème n'est pas que le train coûte trop cher?
Ah là là là. Bon, on fera plein d'émissions
sur la pollution,
sur la pollution et les coûts des transports.
Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, en tout cas, de toutes ces chroniques-là, c'est que, bien entendu, certaines solutions peuvent vous paraître miraculeuses, certains le sont peut-être, mais que l'énergie et les moyens de produire de l'énergie quoi qu'il arrive, eh bien, ont un impact environnemental. Et que ce soit l'essence que vous mettez directement dans votre véhicule, que ce soit le dihydrogène produit, que ce soit l'électricité qui est fabriquée, tout ça demande de l'énergie, ont un impact sur l'environnement. Mmh. Vous ne pouvez pas vous déplacer proprement, sauf à pied.
Méfiez-vous quand on vous vend des solutions miracles. Ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Quand quelqu'un a vu la lumière et a dit « Moi, j'ai trouvé le truc qui révolutionnera », prenez vraiment avec des pincettes ce qu'on vous dit devant vous.
Il ne reste que j'ai quand même vraiment hâte du jour où les grandes villes seront remplies de voitures électriques qui ne feront pas de bruit à 50 km/h.
Comme solution intermédiaire, c'est très chouette.
Je passerai un très bon moment. Mais évidemment, ça n'est peut-être pas demain. On termine du coup avec la dernière news de ce podcast. Et c'est toi, Chloé, qui voulais nous parler. Petit sujet, dernière news.
Eh bien, moi, je vais faire remonter le niveau de gaieté de ce podcast en parlant d'une news un peu joyeuse, un peu positive. Et je vais parler de Volvo.
Il y a une ambulance qui passe à ce moment-là, qui vient de chercher.
On n'y arrivera pas à faire quelque chose de gay. Volvo Car France, donc je pense que c'est la branche voiture Volvo France, soutient des projets sur l'innovation et la mobilité. Et là, dernièrement, ils vont en soutenir 5 au total. C'est des projets qui sont présentés sur Ulule. Il y aura 5 finalistes et dans tous les cas, ils vont donner un peu de sous aux 5. Et en fait, celui qui a été sélectionné là, ce mois-ci, ça s'appelle Andiamo, A-N-D-Y-A-M-O.
Allons-y en italien.
Ouais, mais pas avec le Y. Donc je sais pas si... Et alors, je sais pas s'il y a un jeu de mots avec Andy, le handicap, parce que, en gros, Andiamo, c'est une application qui facilite les déplacements de toutes les personnes en fauteuil, les familles en poussette et tous ceux qui sont gênés par les obstacles de la voirie.
D'accord.
Donc, en fait, c'est un gars qui s'est dit, qui est en fauteuil roulant, qui s'est rendu compte que c'était hyper galère d'être en fauteuil et de se déplacer. Autant dans les moyens de transport que même dans la ville, que quel trottoir emprunter, est-ce qu'il y a des bateaux pour bien passer. Et donc, il s'est dit, je vais essayer de créer des itinéraires en recueillant toutes les données de tous les gens qui ont des problèmes de mobilité et pour offrir une solution d'itinéraire facilité pour, pas que fauteuil roulant, mais comme je vous disais, les poussettes, les vieilles personnes, les choses comme ça.
Tous les gens qu'on appelle à mobilité réduite.
Exactement. Ouais. Et donc du coup, voilà, c'est une petite application qui est présentée sur Ulule. Donc n'hésitez pas à y aller, je mettrai le lien, ça s'appelle Andiamo. Vous pouvez encore participer et leur donner plein de sous, parce que je trouve que c'est une bonne initiative.
Merci beaucoup, Chloé. Voilà enfin des initiatives qui font plaisir. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Victor.
Merci. Instant Fibre Tigre, nous avons un Patreon et des émissions de qualité avec notamment la meilleure émission ex aequo de rap et de hip-hop avec elle-même, donc Californie. Allez écouter, c'est fantastique. Et Six and Daz aussi, c'est fantastique.
Je suis bien d'accord avec ça. Merci beaucoup, Chloé.
Merci. Alors, je voulais juste faire un petit disclaimer sur la première émission où j'ai parlé de l'application GéoVélo en disant que je croyais que c'était de la mairie de Paris. Erreur monumentale, c'est pas du tout une application de la mairie de Paris, c'est une application faite par des gens de Tours. Donc, bravo les Tourangeaux. Et je voulais m'excuser auprès d'eux. Et voilà, on n'est pas une émission que sur Paris et j'avais envie de le souligner.
Et on fait des disclaimers et des erratum sur le forum aussi, donc venez sur le forumdequalité.com.
C'est ce que j'allais dire en plus, évidemment, de nos disclaimers et de nos erratum, on peut faire des erreurs, on a le droit de se tromper, évidemment. On source évidemment un peu tout ce que l'on a sur ce podcast et je me ferai un plaisir de vous partager du coup toutes les thèses que j'ai pu lire ou tous les articles que nous avons pu lire pour préparer en tout cas ces chroniques. Merci beaucoup à Quentin de nous avoir encore une fois réalisé tous ici. Merci à tous.
Faites-vous nos retours sur nos réseaux sociaux et le forum et le Discord. On attend impatiemment vos commentaires.
Tout à fait, avec impatience. Merci à tous d'écouter Commute. Et eh bien, je vous souhaite évidemment une très bonne fin de soirée à tous. Bisous.